Nous sommes mercredi 21 octobre 2020, il est 21h et vous écoutez le Dojo Bar. Et du coup j'ai oublié l'intro au cas où.
Après il peut le faire après. Hein.
Après.
Je suis désolé. Ah oui, alors l'intro au cas où. C'est parfait. Non mais on va pas s'en sortir. Bah voilà, c'est l'émission au schnapps, c'est officiel.
Du début à la fin, on a même plus de pause musicale, tout sera fait au cas où par Mectron.
On a plus de pause musicale, on a plus de direct, on a plus la console de mixage a décidé de mourir 10 minutes avant l'émission. Ce qui est extrêmement agréable de sa part.
C'est l'émission des enterrements.
Oui, c'est ça d'ailleurs. C'est parce que c'est une émission triste. Est-ce que tu peux nous faire le requiem Enfin, ramener le casou à toutes les émissions.
Oh merde.
Bref, donc, au programme de ce soir, nous allons parler de la 3DS, puisque ça y est, c'est officiel, elle est morte. Nous, on l'avait annoncé largement avant tout le monde.
Ah, elle était déjà morte, elle ne le savait pas encore.
Elle ne le savait pas encore, mais elle était déjà morte.
Et Nani
Nani. Voilà, donc nous allons parler de la 3DS, on va parler du hardware lui-même, de ses différentes révisions, de un petit peu son histoire, sa genèse, et comment on est venu là. On va faire une petite rétrospective sur des jeux, puisque finalement on parlait quand même de quelques jeux, alors j'en ai balancé une petite série, on a rebalancé une série dans la tronche, donc j'ai fait un petit gros mix de tout ça pour obtenir quelque chose d'à peu près cohérent. Et donc ce qui va se passer pour finir, l'Europe. C'est là qu'il faut que je regarde comment je vais me débrouiller ici. Voilà. On finira peut-être par les moments, les choses un petit peu qui vous ont marqué avec cette console, sachant que je ne sais pas si ça restera dans l'histoire un grand succès de Nintendo, c'est quand même beaucoup moins vendu que la DS.
Ça a pas bidé, ça a mis du temps à démarrer, c'était pas dégueulasse, mais c'est pas oufissime comme c'était d'habitude.
Alors a priori c'est la console de portable de Nintendo la moins bien vendue. Si on se fie à Nintendo.jp et sa page de vente, que je vais retrouver tout de suite.
Ce serait pas très étonnant, parce que quand tu regardes le score complètement délirant de la Game Boy, Game Boy Advance peut-être un petit peu.
Alors la Game Boy et la Game Boy Color sont souvent combinés.
Même chez Nintendo.
Ouais. Ouais, ils s'emmerdent pas, c'est pas. Ça reste globalement la même console.
C'est oui, enfin de toute façon c'est plus de mémoire et puis c'est à peu près tout. Quoi.
Et de la couleur.
La couleur.
Alors 75 millions d'exemplaires quand même, hein, c'est pas dégueu. Au 30 juin 2020, donc des chiffres récents.
Des chiffres sympathiques.
Ça. Donc à titre de comparaison, la DS s'est vendue à 154 millions d'exemplaires.
Voilà.
La Game Boy s'est vendue à 118 millions d'exemplaires. Et voilà. La Game Boy Advance s'est vendue à 81 millions d'exemplaires.
Donc c'est pas si mal que ça.
Et la console de salon la plus vendue, bon, c'est la Wii, c'est 100 millions, mais ça va, c'est pas dégueu, c'est mieux que la NES, par exemple, ou la Super NES.
Oui, mais c'est pas... Enfin, la ou la NES, Switch, c'est quoi, c'est 40 millions.
Mais bon, ça, c'est plus pour longtemps.
Étrangement, la 3DS a eu moins de succès que la DS, mais elle a duré plus longtemps.
Oui, beaucoup plus longtemps.
Alors, oui et non, parce que c'était un peu sous respirateur artificiel pendant 3 ans.
Oui, il faut quand même être honnête. Enfin, nous, on a annoncé la mort de la 3DS au moment où la New 2DS XL allait être annoncée. De mémoire. C'est-à-dire qu'on avait commencé à dire qu'il n'y a pas grand-chose sur 3DS à peu près à cette période-là. Bref, vu qu'il n'y a pas vraiment d'actu, on va marquer une première petite pause musicale qui est une fausse pause musicale. Puisqu'on
ah, j'ai rangé le casou. Hein.
Ah ouais, Bref, on va écouter le thème Find Me de la Plaza, Street Plaza, je sais plus comment ça, merde.
Ouais, la Mi Street Plaza.
Mi Street Plaza, qui est en fait...
Street Pass Mi Plaza, je sais plus. Street Pass, le bordel
voilà,
qui était dedans.
Le bordel du truc qui était dedans. Et voilà, c'est la musique en fait de quand ton personnage est kidnappé et qu'il faut aller le chercher dans le donjon. On l'a tous fait, hein. venez pas...
Dans le donjon, oui. Kidnappé, dans le donjon.
Dans le donjon. Dans le donjon. Bref, donc on va s'écouter ça, ça durera à peu près 2 minutes et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Ça n'a aucun sens. Je suis désolé, ça ne marche pas. Je sens une espèce de décalage avec la réalité. Je suis dans l'Uncanny Valley.
Décalage.
Parce qu'il faudra qu'on parle des trucs qui se passent en coulisses qu'on vous dit pas. On vous ment et on vous spoilie.
Surtout aujourd'hui. Là, c'est vraiment absolument catastrophique.
L'illusion est totale.
Le chat est effaré. Ils ne disent plus rien.
Ah oui, non.
Je crois qu'on leur a cloué le bec.
Oh mon dieu, le pire c'est qu'il va falloir quand même que je trouve une solution à cette connerie. Enfin, que je trouve pourquoi c'est parti en couille. Bref. Donc on va démarrer avec la rétrospective 3DS, avec le hardware lui-même, parce que c'est quand même une des consoles de Nintendo où il y a eu le plus de révisions hardware.
Il y en a eu beaucoup trop même.
Il y en a eu beaucoup trop.
Sur la fin, c'était l'orgie.
Est-ce qu'on peut faire la liste pour rigoler un peu?
On va faire la liste.
On a eu la 3DS.
Voilà, la 3DS, en 2011, sort la 3DS au mois de février-mars de mémoire, quelque chose comme ça. Donc, ils sortent la 3DS avec un CPU qui est direct héritier de la DS. D'ailleurs, la console est 100% rétrocompatible avec la DS, et ça, c'est très cool. Parce que voilà, c'est quand même pas négligeable. Mais un GPU de folie, enfin, en tout cas pour une console portable, un GPU de folie, qui est le Pika 200, qui est une petite bombe de GPU qui fait qu'avec toutes les petites extensions qu'il y a dedans, c'était l'équivalent d'un bon GPU en, allez, on va dire, 2007. Donc t'as quand même une belle petite carte graphique dedans, sur un hardware tout à fait miniature, avec l'écran auto-stéréoscopique, c'était ça la grosse nouveauté.
Donc, pour ceux qui comprennent pas le terme technique, ça veut dire qu'elle affiche de la 3D relief sans lunettes.
Tout à fait, ce qui était une grosse nouveauté. Je rappelle que en 2011, c'était un peu le haut de la vague de la 3D. Hein. C'est-à-dire que t'avais des télé 3D, t'avais des films qui sortaient en 3D, t'es machin comme ça. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Genre violent.
Y compris Nintendo.
Non mais ça ils s'en sont foutus très très rapidement.
Très vite, mais rappelez-vous, à la base, le message d'Iwata, c'était « Ah oui, notre prochaine console, elle fera de la 3D sans que vous ayez besoin de lunettes. » Et ça nous avait cassé la bouche, à l'époque.
Ah, complètement. Hein.
Bah, c'est vrai que sur le coup, l'annonce était intéressante, parce que la 3D, mine de rien, ce qui faisait surtout scier les gens, finalement, c'était plus la contrainte que en tout cas, mon cas, c'est que c'est la contrainte qui était trop élevée par rapport à l'apport que ça donnait. Alors, surtout dans les films, où généralement, ta place est augmentée de 3€.
Ah, tu parles au ciné alors.
Au ciné, là je parle au ciné.
Ok, ouais.
Bah, c'est vrai qu'en jeu vidéo, ça n'existait pas parce que c'était des télés spécifiques. Et alors les télés spécifiques, ça coûtait une blinde, personne n'en voulait.
Si, t'avais les lunettes, le truc là, les lunettes rouge-bleues.
Ouais, voilà.
Avec certains jeunesses, ça marchait bien.
Mais du coup, c'était intéressant parce que la 3D sans lunettes, ça disait que, bah, en fait, il y avait moyen d'avoir ça sans la contrainte principale. Bon, après, dans les faits. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais...
Sur la première génération de machines, ça marchait, mais il fallait vraiment être bien en face de l'écran et tout, c'était quand même... Ah,
Ouais, alors après, en plus, la première génération de machines, si on parle du hardware... La 3DS, c'est un truc intéressant, c'est que c'était vendu sur la 3D, sans lunettes, mais en fait, elle est blindée de gimmicks d'époque, notamment, il y avait... parce qu'on avait des trucs fournis avec, notamment de la réalité augmentée, pardon, pas virtuelle.
Augmentée.
C'était aussi un peu un gimmick de l'époque. Bon, on avait le Street Pass, dont on parlera après. Qui a du. Je sais pas si pour le coup ça ressemble pas vraiment à un truc qui a été à la mode ou quelque chose comme ça, mais.
Bah, c'était un des trucs très originaux, le Street Pass.
Ouais.
Puisque effectivement, si tu gardais ta 3DS en veille dans ta poche, dans ton sac, tout ça, et que tu croisais d'autres gens qui avaient une 3DS, bah t'avais les Mi qui s'échangeaient et puis tu pouvais gagner des bouts de puzzle. Des pièces, tu pouvais avoir des Mi spéciaux pour pouvoir justement faire les challenges du Street Pass, du Mi Plaza, enfin tous les petits mini-jeux du Mi Plaza. Non, ça, le Street Pass, c'est un truc qui
ça
va
bien,
peut-être manquer.
Ça, c'est un truc dont on pourra parler après d'ailleurs. Je trouve que c'était les bonnes idées de la 3DS.
Place avant qu'on oublie, vous rappelez qu'il y a eu des DLC pour le Street Pass.
Oui, il y a eu des DLC pour le Street Pass.
On s'en souvient de ça.
Et c'était justifié, il y a des gens qui passaient des heures sur le Street Pass.
Mm. Ah ouais, non, mais enfin, le début du Street Pass, c'était un truc de fou. Hein. Mais juste pour finir, t'avais ces fonctionnalités-là qui étaient nouvelles et qui faisaient parfois un peu gadget, parce que t'avais. Parce qu'il y avait aussi des caméras pour prendre des photos. En fait, c'était vraiment la 3DS, c'était la suite de la DSi. Il y avait déjà un menu similaire en termes de. Avec des petites cases pour pouvoir avoir plusieurs logiciels que tu télécharges. Qui avait l'appareil photo, qui est aussi présent sur la 3DS et qui permettait de prendre des photos 3D en plus sur 3DS, et les fonctionnalités de la DSi, donc l'écran tactile et les deux écrans. Vraiment dans, c'était vraiment dans la continuité
et
de la DS.
Et le micro hérité de la DS, enfin. Et,
voilà, il y avait du
gyroscope. Il y avait tactile, il y a du. Alors, gyroscope. Pas sur la DS.
C'est sur dans les DS. Cartouches. Dans les cartouches, je sais qu'il y en avait. Après, est-ce qu'il y en avait nativement dans la console?
Je ne crois pas.
Par contre, il y en avait nativement dans la 3DS, ça c'est sûr et certain. Et c'est, tu, sens un peu que c'est le. C'est un peu la réponse de Nintendo au smartphone à base de. Bah, on va remettre toutes les fonctions que dans les smartphones, bon, sauf que derrière on a un écran tactile qui se fait avec uniquement un stylet, donc c'est un petit peu de la merde. Quand tout le monde est habitué à faire ça directement avec son pouce. Et c'est vrai que t'as une console qui est un peu le cul entre deux chaises, qui à la fois je trouve, enfin, moi c'est mon avis, au niveau hardware, c'est t'avais un truc qui se voulait un petit peu en avance avec la 3D sans lunettes et un petit peu dans la mode du moment, et qui pour tout le reste en fait était un petit peu en arrière. Ou essayer juste de rattraper la mode, et c'est con, mais pour une console portable Nintendo, et même une console Nintendo surtout de l'époque, ça faisait vraiment plus suiveur que la DS, qui vraiment avait proposé un truc original. Enfin, le jeu tactile, la DS c'était en 2004, donc c'était 3 ans avant l'iPhone. Il y avait des trucs qui étaient assez avant-gardés sur DS, qui sur 3DS, t'as juste l'impression que c'est genre un peu une PS Vita, quoi. Donc voilà, plutôt une PSP.
C'est quoi une PS Vita?
Les consoles portables Nintendo, ça a toujours été l'utilisation latérale des technologies désuètes.
C'est vrai, d'ailleurs, effectivement, puisque l'écran LCD de la Game Boy, c'était déjà une technologie qui était considérée comme relativement obsolète au moment où la console est sortie.
Et justement, la 3DS, c'est vraiment des gimmicks qui sont dans l'air du temps, pour certains. Et c'est là où ça clash un peu avec ce qu'il y avait avant, quoi.
Le Miiverse, il était d'office ou il est arrivé
non,
après?
Non, il est arrivé avec après. La mise à jour.
Okay. Il est arrivé après.
C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Donc bref, on a eu la 3DS qui est sortie à 249€.
Ouais, et puis en plus avec hardware, enfin moi franchement je l'ai eu le premier modèle. Pouf, c'est pas solide hein. Moi c'était vraiment des pires hardware qu'a fait Nintendo. Je
crois, ah mais la charnière elle était dégueulasse.
Enfin, la charnière était dégueulasse, les boutons start et select passaient n'importe comment, et moi j'avais l'impression que j'allais l'exploser. Hein.
Ouais, c'est vrai que c'était quand même très compliqué.
Je pense que c'est un des pires premiers modèles de portable de Nintendo, c'est même le pire en fait ça. Ah quoi que. Il y a la GBA.
Oh, la DS Tank, elle était.
La DS Tank.
Non, pour l'instant, elle est très bien.
Alors, elle était solide, mais je la trouvais dégueulasse.
Ouais, j'ai pété la charnière de la DS Tank.
L'homme, le bourrin.
C'est ça. C'est ça que j'attends sur la droite avec la 3DS.
Bah ouais, mais bon, vaut mieux. Donc du coup, elle sort à 249€.
250, à une époque où la DS est à 100 balles.
Ouais, voilà.
Donc la c'était... dernière révision de la DSi est à 100 balles.
Et Nintendo s'était dit, il n'y a pas de problème, ça va se vendre comme des petits pains. Pff,
ça fait de la 3D, vas-y.
Ça fait de la 3D, du coup, voilà.
Et sauf ça fait un bide.
Ça fait un bide, ça marche pas du tout. Alors déjà, il n'y a pas énormément de jeux. C'est-à-dire, j'ai recherché les jeux de lancement de la 3DS, mais c'est vrai que c'est du...
Qui voilà. S'en souvient?
Alors, je les ai. Genre,
Oh Dieu, il les a tous.
Star Fox, Street Fighter 4, Dead or Alive, Ridge Racer, Nintenshin et Pilot Wings.
C'est quand même très léger. C'est-à-dire que je me rappelle que Street Fighter 4 était quand même un truc assez ouf, parce qu'effectivement, c'est Street Fighter 4 en version portable et ça marche très bien. Vraiment très bien.
Ah oui, c'est très très bien.
Pilot Wings, bah, malheureusement, c'est Pilot Wings, donc c'est quand même pas la folie.
C'est vite limité.
Et alors, Nintendogs plus 4, j'ai l'impression que ça fait partie des trucs qui ont vraiment bidé, parce que finalement, Nintendogs était c'est pas un bon jeu, mais c'était vraiment une belle démo technique pour la DS qui était vendue à pas trop cher. Nintendogs plus 4, bon.
Même chose quoi, démo technique, la 3D c'est sympa, et puis bah, niveau jeu, en un quart d'heure t'en as marre.
Non, et puis Nintendogs aussi c'est un jeu de l'époque de la DS qui a eu son gros succès, ils se sont dit ça va repasser une deuxième fois, sauf qu'en fait les gens sont passés à autre chose.
Ils sont pas repassés une deuxième fois.
Ils ont peut-être acheté un vrai animal de compagnie, tu vois.
Ou un iPhone.
Ils ont passé sur smartphone.
Mais c'est ça.
C'est ça. Et ce qui marchait en 2004-2005, bah forcément ça attire plus les foudres 6 ans après, des gens qui ont probablement déjà oublié l'existence de Nintendogs. Hein.
Oui, on va pas se cacher, c'est le genre de truc qui effectivement avait assez peu de chances de fonctionner. Bref, donc tout ça ne marche pas, du coup il y a une baisse de prix, me semble-t-il, au mois de juillet.
C'est arrivé vite,
c'est arrivé assez vite.
Les baisses de prix les plus rapides. Hein.
Et le programme ambassadeur, que donc du coup je crois qu'au dojo tout le monde l'a, le programme ambassadeur.
Ah non, pas moi.
C'est vrai?
Je l'ai acheté après, parce qu'elle était trop chère et qu'il n'y avait pas de jeu intéressant.
Oh, le mec qui achète pas du hardware Nintendo le jour de sa sortie pour se faire pigeonner.
Ah bah, franchement, c'est marrant, mais c'est les deux hardware de cette période que j'ai pas acheté à leur sortie. Hein.
C'est quoi le deuxième?
Le Wii U.
C'est quoi une Wii U?
Bon, et la Wii aussi, mais ça c'était plus des problèmes de stock.
Ah, moi j'ai eu la seule Wii du magasin quand j'étais. Je l'avais précommandé genre 6 mois à l'avance, donc j'étais le tout premier de la liste et j'ai eu la seule Wii du magasin. Bref. Enfin bon, pour la 3DS, donc... Ah,
santé.
Quand même. Ah. Pour la 3DS, donc, le baisse de prix à... Alors, de mémoire, 199€, mais c'était peut-être 179€.
C'est descendu à 200...
C'est ça.
C'est passé au palier psychologique en dessous, en fait.
C'est ça. 200.
Et du coup, le programme ambassadeur, donc tous les gens qui l'avaient acheté, donc Nintendo pour faire Please Understand Directly.
Ouais, ça date de là d'ailleurs, hein, le Please Understand.
Oui, je me semble aussi que ça date de là. C'était pour s'excuser qu'ils ont fait bénéficier aux gens qui avaient les premières 3DS de. Alors je crois que c'est quelques jeux. Alors NES gratuit de mémoire.
Alors c'est des jeux NES et des jeux GBA.
Et surtout des jeux GBA qui ne sont jamais ressortis après.
Les Metroid par exemple.
Sous aucune forme.
Et puis des bons jeux GBA de mémoire, parce qu'on avait, du Metroid.
Wario Land 4, Metroid Zero Mission, Metroid Fusion.
Ah, donc ouais, les deux Metroid, c'est des valeurs sûres. T'avais Fire Emblem Sacred Stone, c'est pas le meilleur des deux sur GBA, mais voilà.
T'as quand même un Fire Emblem. Et t'avais deux, trois autres bricoles, mais enfin, c'est vraiment des. Oui, c'est pas du jeu de connard, hein. Il y en a une petite dizaine.
Donc ouais, mais d'ailleurs, il n'y aura pas de Virtual Console GBA par la suite.
Ce qui est extrêmement étonnant, puisque l'émulateur était prêt, puisque tous les gens qui ont le programme ambassadeur,
Alors en fait, non, parce que quand j'avais justement fait la remarque à une époque, un gars qui avait programmé un CDR m'a dit justement, en fait, ils sont émulés tels quels. Il n'y a pas de surcouche console virtuelle comme on avait sur la Wii ou sur les jeux Game Boy qui sont sortis par la suite sur la 3DS. T'avais pas de possibilité de faire des tests, ce genre de choses. C'était vraiment le jeu brut sans cette couche-là. Et apparemment, ce serait parce que c'était pas possible d'émuler plus que ça. Moi, j'en sais pas plus que ça, mais je sais pas si c'est vrai ce qu'il m'a dit ou pas. D'ailleurs, vous pouvez me confirmer parce que moi, je l'ai
non,
pas.
Non, je ne sais pas. Oui, il y a pas de menu. Enfin, oui, comme tu dis, il y a pas toutes les fonctionnalités que tu attends d'un émulateur commun. Quoi.
Oui, d'ailleurs, les jeux GBA en console virtuelle, ce sera sur Wii U. Parce que pourquoi pas.
Parce que pourquoi pas. Et donc je résume les 10 jeux. Donc F-Zero Maximum Velocity. Une valeur sûre. Fire Emblem de Sacred Stone, donc effectivement pas le meilleur, mais un Fire Emblem quand même. Kirby and the Amazing Mirror.
Très bon Kirby.
Mario Kart Super Circuit, grand classique. Mario versus Donkey Kong. Metroid Fusion. Donc non, il n'y a pas Metroid Zero Mission, c'est une erreur de ma part.
Alors c'est le meilleur des deux.
The Legend of Zelda The Minish Cap.
Ah mais oui.
Ça fait plaisir. Wario Land 4. WarioWare Mini Game Mania. Et
alors,
Yoshi's Island Super Mario Advance 3. Alors, Minigame Mania, je crois que c'est le deuxième. Sur GBA.
Le premier est quand même un excellent jeu. Hein.
Bon, bref, donc du coup, ça fait quand même. Voilà, on a eu quelques petits jeux gratuits. Et je crois qu'il y a eu effectivement des jeux NES, mais qui eux sont sortis derrière officiellement.
Bah, d'ailleurs, ils étaient au format. A priori, c'était au format.
Au bon format.
Au bon format.
Enfin, au format émulateur classique Nintendo avec les options qui vont bien.
Bon, a priori, Minigame Mania, c'est le premier, mais c'est pas son nom français.
Ah, ou c'est peut-être parce que j'ai le nom américain.
C'est ça.
C'est possible. Voilà, et donc, ça marche bien. La 3DS, ça se met à décoller. Faut dire que Super Mario 3D Land sort dans la foulée. On en parlera un petit peu après, donc je vais pas. Mario Kart 7, c'est pareil. Il y a Retro Studio qui est ramené là-dessus pour essayer de le sortir le plus vite possible. Donc, ça y est, la machine Nintendo est lancée, ils se sont bien rendus compte que c'est pas avec des chiens et des chats qu'on arrive à tout vendre, et ça devrait aller. Donc, on passe à la 3DS XL, donc comme la DSi XL, la 3DS XL, c'est la même 3DS, mais plus grande.
Ça c'était quoi? C'était en 2014, 2013
hein. Non, oula, 2013, je crois, c'est un an et demi ou deux ans plus tard. Et ça fait que ta 3DS originale avait l'air ridicule.
Ouais, mais je pense que j'aurais été vachement plus à l'aise avec ce modèle-là, mais...
Avec la grande, tu veux dire?
Avec la grande, oui.
Alors, je l'ai eu dans les mains, je la possède pas personnellement. Je l'ai eu dans les mains, oui, c'est vachement plus confortable, par contre, la résolution, c'est la même.
2012, le modèle XL.
D'accord.
Pardon, juillet 2012, donc à peine un an après la modèle normale.
En termes de sortie, c'est un peu violent.
Ça, c'est vraiment allé très vite, ouais. Et du coup, ouais, je disais, donc l'écran est plus grand, par contre la résolution reste la même, et il y a certains jeux où ça picote un peu.
Et dans le même temps, je trouve personnellement que la 3DS XL a une espèce de... Enfin, tu vois la grille de pixels.
Oui, en plus.
Mais justement, je trouve que sur certains jeux, ça rend drôlement bien, en fait. Enfin, ça rend l'image plus agréable, notamment les jeux en 2D.
Ah ok, ok, je pensais la grille de l'écran 3D où t'arrives à voir les barres verticales.
Non, je pense moi c'est vraiment pas ça, c'est juste effectivement tu as comme des scanlines en fait sur la version XL que tu ne vois pas sur la version normale, et je trouve que sur certains jeux 2D, notamment Fire Emblem auquel je pensais, et enfin sur la partie la partie carte, je trouve que ça rend le jeu super agréable et super lisible. Mais voilà, c'est juste une remarque personnelle pour avoir beaucoup joué sur 3DS XL. Je trouve que l'écran, même si la résolution est effectivement exactement la même, c'est le même principe que la DSi XL, hein, c'est juste on a agrandi l'écran mais pas la résolution. C'est aussi bête que ça.
Et d'ailleurs, en termes de hardware, les petits défauts d'ergonomie qu'on avait mentionnés avant, notamment le placement des poussons start et sec, a priori, ils sont changés cette version, si je me trompe pas. Non, j'ai rien dit, c'est des conneries. C'est toujours en dessous de l'écran.
Ah non, c'est celle d'après.
C'est celle d'après. Par contre, ça fait moins plastoc.
Alors attendez, parce que celle d'après, c'est la Nintendo 2DS.
Oui, c'est vrai, mais justement, pardon, là, ils l'auront pas fait. Ça.
Tu l'avais oublié celle-là. Non,
c'est pas possible. Pourtant, la 2DS, c'est assez intéressant parce que. Bon, ils la sortent pour Pokémon, donc c'est en 2013. Et en fait, deux ans après le modèle d'origine, ils vont faire. Bah, en fait, la 3D sans relief, on s'en branle. Enfin, sans lunettes, on s'en fout.
Mais t'avais toute une polémique, les parents qui avaient.
Les yeux des enfants.
Voilà, c'était ça. Les gens en avaient peur, finalement.
Mais même Nintendo recommandait la console 3DS aux 7 ans et plus. Hein, était assez inédit d'ailleurs pour le coup.
Oui, effectivement, ça leur a fait une mauvaise presse eux-mêmes, puisque effectivement ils avaient dit eux-mêmes que c'était pas recommandé de mettre. Même s'ils ont fait énormément de communication sur le fait que le contrôle parental permettait de le désactiver.
Ce que je vais te demander, le petit switch sur le côté, il n'était pas que hardware alors.
Il n'était pas que hardware, il est aussi software, puisque tu peux mettre le contrôle parental pour dire je veux pas de 3D. Enfin, quand tu démarres un jeu, en fait, ça te demande est-ce que tu veux le démarrer en 3D ou est-ce que tu veux le démarrer en 2D. Si tu le démarres en 3D, il te faut le code de déverrouillage. Donc ils avaient beaucoup communiqué là-dessus à l'époque. Et en fait, ça n'a pas marché non plus.
D'ailleurs, tu veux un truc amusant sur la 2DS, hein, parce que là, je regarde Wikipédia, je vois un truc bizarre. Alors peut-être qu'ils sont trompés, faudra vérifier. Mais apparemment, elle est sortie le 27 février 2016 au Japon.
Bien après, alors.
Bien
la
après.
La 2DS.
La 2DS d'origine, ça m'étonne pas mal aussi.
Oui, ce serait très étonnant. Très étonnant.
Est-ce qu'elle est trop grosse pour leur poche, c'est quoi le...
Bah, en même temps, c'est une console un peu particulière, parce que je rappelle que la révision hardware de la 2DS, tu n'as plus qu'un seul écran tactile, qui en fait est, entre guillemets, séparé par un petit truc au milieu, mais c'est tout, quoi.
Oui, d'ailleurs, il faudra qu'on parle du fait qu'on a un écran plus large que l'autre, d'ailleurs, sur la 3DS, qui est toujours très étrange, mais...
Bah, c'est logique, en même temps.
Enfin, oui, non, mais c'est logique, mais...
Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Je suis bien d'accord.
Et donc, après la 2DS, on a l'ultime série de révisions.
Oui, voilà, il y a la New 3DS et la New 3DS XL qui sortent en même temps.
Ouais. Et puis pas en même temps partout dans le monde, par contre. Ça va de octobre 2014 au Japon à février 2015 en Europe. Ah non, ça va même jusqu'au 25 septembre 2015 en Amérique du Nord. Waouh. Alors peut-être que c'est que le modèle normal. Ok, un truc bizarre comme ça.
En tout cas, il y a une New 3DS et New 3DS XL. Et voilà, alors moi je me rappelle que j'ai acheté une New 3DS, enfin non, une 3DS XL le jour où la New 3DS XL a été annoncée. J'étais très content. Très très content. Et donc le dernier modèle de la série, c'est la New 2DS XL qui effectivement reprend les mêmes caractéristiques que la New 3DS XL mais qui enlève complètement la 3D. Mais vraiment complètement, c'est-à-dire autant la 2DS l'avait enlevée. Et je pense que c'est un modèle qui a plutôt bien marché.
Ouais.
Et du coup, là, bah voilà, là, on l'a supprimé définitivement, et puis c'est réglé.
Surtout, ce qui était intéressant avec les deux versions de 2DS, c'est que c'était le modèle le moins cher. Parce que je crois qu'il y avait genre 50 euros de différence avec les modèles normaux, enfin avec le modèle classique de la 3DS.
Mais il me semble que la 3DS classique, là, vraiment la toute première, il y a un moment, on la trouvait plus du tout aussi.
Ah oui, non, mais ils l'ont dégagé. De toute façon, dès que les modèles new sont sortis, ils ont dégagé les anciens.
Hein. C'est bah, mieux. Parce que tu y retrouvais, t'as certains jeux qui étaient exclusifs à la new. Parce qu'on, je sais pas,
il y avait trois jeux exclusifs à la new grand max, quoi.
Alors, t'avais des jeux qui étaient conseillés pour, parce que donc t'avais cette révision hardware qui boostait un peu les perfs de la machine, et surtout le stick droit.
Ouais, c'est ça, surtout ce qui était important. Alors, outre le fait qu'ils ont amélioré le placement des boutons, mis un second stick, et je pense améliorer les finitions.
Et c'était vraiment le second stick. Il y a eu un boost mémoire aussi, il y a eu deux boutons latéraux de plus, puisque t'as un bouton ZR et ZL qui n'existait pas à l'origine.
Et alors, ça, c'est pour Monster Hunter.
Complètement.
D'ailleurs, bonne blague, on a oublié d'en parler, mais il existe quand même un accessoire pour la 3DS normale absolument débile.
Ah oui. Mon dieu.
J'ai tiré après pourquoi il est débile.
Le Circle Pad Pro.
Et qu'est-ce que c'est? C'est un bout de plastique avec un stick sur la droite pour pouvoir faire du double stick.
Oui, donc t'as tes 4 boutons, ça communique en Bluetooth avec ta 3DS de base.
T'es obligé de mettre des piles dedans.
Cette merde, elle marche à pile.
Le pire accessoire de l'histoire.
Là, c'est même pas la DS qui l'alimente, ça, c'est nul à chier.
Non, c'était... Voilà,
mais en même temps, la 3DS avait quand même une batterie de chier. Hein. On a une tendance à l'oublier.
3 heures.
C'était vraiment de la merde.
C'est la... Ça marchait mieux de ce point de vue.
C'est la cousine de la Game Gear.
Un peu ça, hein. Franchement.
Par contre, en veille, elle tenait largement la journée.
Ouais, il y avait un très très bon mode veille, ça c'était cool. Alors, il est pas aussi pété que celui de la Switch.
Mais celui de la Switch, il est fumé. Non, mais il est fumé, ça tient un mois avant de crever.
Non, mais celui de la Switch, c'est surtout que la Switch, elle tourne pas du tout quand elle est en veille. Donc,
Alors, c'est vrai que la 3DS, il y avait cette particularité, donc on en a parlé tout à l'heure avec le Street Pass. Qui permettait, et le Spot Pass aussi, parce qu'il y avait ces deux fonctions. Donc le Street Pass, c'était le contact entre les 3DS entre elles, quand on se baladait dans la rue. Et le Spot Pass, c'était l'idée de télécharger les données en amont via
c'était
le Wi-Fi.
C'était avant le Covid.
Avant Stop.
Le Street Pass, c'était avant le Covid.
Bah, tu peux faire du Street Pass masqué. Hein.
Pas faux. Bah, dans les transports en commun le matin, tu peux. Hein. Il y a du monde.
Mais tu pouvais, parce que je me rappelle, il y a une période aux alentours de 2014-2015 où effectivement, tu allais en train ou en avion, n'importe où, fallait vraiment que tu prennes ta 3DS parce que tu Street Passais comme un ouf. Et
ah ouais,
cool.
les premières années... de la 3DS, tu serais de passer. Et en fait, qu'est-ce que ça fait le Street Pass? Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais je pense que c'est quand même bien de parler de cette fonction qui était quand même plutôt cool. C'est qu'en fait, donc il y avait une application dédiée qui était, alors je sais, Street Pass Me, je crois, qui proposait plusieurs jeux, notamment une espèce de mini RPG et une collection de refaire les puzzles. Et il y avait aussi certains jeux qui étaient compatibles avec, et je crois que quasiment tous les jeux Nintendo ont une fonction Street Pass plus ou moins.
Ouais.
Et en fait, si tu croisais quelqu'un qui avait une 3DS, tu récupérais son Mi qui devait être visité sur la place Street Pass, de mémoire, je crois que c'est comme ça que ça
s'appelle.
Oui, c'est
ça, sur le Mi Plaza. Donc le Street Pass Mi Plaza.
Celle où t'avais les fameux mini-jeux type le puzzle ou le donjon Mi, là, dont le boss final apparaît dans un terrain de Smash Bros. C'est dire à quel point, c'est d'ailleurs un truc qui a marqué les gens, c'est qu'il y a quand même eu un terrain de Smash Bros dédié à ça. Ce qui est pas mal.
Ça me paraît logique, moi.
En même temps, il y a un terrain dédié à PictoChat aussi, mais...
Oui, mais où on ne peut pas dessiner la plus grande bite du monde.
Non. Mais voilà, et après, si la personne avait une sauvegarde de jeu compatible, tu pouvais avoir des bonus dedans. Alors, ce dont je me souviens le mieux, c'est Fire Emblem, puisque tu pouvais...
Forcément.
Alors, Awakening, parce que je me souviens plus ce qu'il fait dans les autres. Mais dans Awakening, sur la carte du monde, tu avais des équipes, des mecs que tu croisais en Street Pass qui apparaissaient. Et tu pouvais soit les combattre, soit recruter certains de leurs personnages.
Et il y a Kid Icarus Uprising aussi qui avait un truc rigolo où tu pouvais faire des cristaux avec tes armes. C'est-à-dire que tu pouvais prendre une arme que tu avais craftée ou récupérée, l'enfermer dans un cristal et la mettre à disposition dans le Street Pass. Et en fait, quand tu croisais quelqu'un, tu pouvais échanger des armes avec lui et donc récupérer des armes cool.
Je pense qu'il y avait des trucs aussi dans Pokémon, je sais pas, le souvenir de vraiment tout.
Il y a plein de jeux, je crois que Street Fighter 4, t'avais un combattant qui se foutait sur la gueule avec d'autres combattants et que t'entraînais au fur et à mesure.
Mmh. Ouais, je serais pas sûr qu'il y ait un truc comme ça avec Pokémon.
C'était dans Smash, le truc où il fallait pousser le pion de ton adversaire en dehors d'une petite arène.
Ouais, c'est possible, mais voilà, ils avaient trouvé plein de gimmicks comme ça, où en fait, quand tu avais fini ta balade, tu te posais chez toi, où là t'étais arrivé, et que tu trouvais ta 3DS, t'avais la petite loupiole verte qui brillait, c'est-à-dire que t'avais eu un Street Pass. Et tu pouvais faire les jeux et tout. Il y a un côté très, très inspiré du jeu smartphone que tu fais une fois de temps en temps pour t'éclater, tu vois, quand tu t'occupes dans le métro, là c'était un petit peu pareil quoi. Et tu pouvais avoir des bonus assez sympas dans les jeux pour faciliter la vie selon les personnes que tu street passais, et ça c'est plutôt cool.
Oui, t'avais quelques petits bonus sympathiques. Je sais pas si on passerait pas un peu à la suite, parce que finalement, on va commencer à aborder les jeux, on a déjà commencé...
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a une console virtuelle dessus, quand même. La console virtuelle Game Boy Color. Pas si c'est vraiment utile d'en parler, parce que...
Pas grand-chose.
Un eShop moins dégueulasse que celui de la Wii, en termes de présentation, en termes de menu.
Mais dégueulasse quand même, hein.
Ouais. Oui, les compatibilités DSiWare, ça c'était, c'était cool.
Tu pouvais récupérer les jeux DSi, et puis surtout, en fait, assez rapidement, on a pu commencer à télécharger directement les jeux sur la console. Et mine de rien, pour une console portable, c'est plutôt chouette comme fonction.
Ouais.
Mais surtout avec les trucs genre Street Pass, où effectivement, t'es obligé de... Même si quand t'as Street Passé quelqu'un sur un jeu en particulier, t'es obligé de démarrer le jeu lui-même pour pouvoir accéder au mini-jeu qui est à l'intérieur, qui profite des fonctionnalités de Street Pass.
Ça, et puis des jeux type Animal Crossing. qui est toujours le meilleur exemple du jeu des maths chez Nintendo, bah mine de rien, c'est parfait, parce que t'as le jeu dans ta console, et puis quand tu veux te faire ta petite session d'Animal Crossing, t'as pas à changer la cartouche.
Et oui, et ça, ça fait plaisir. Bref.
Mais voilà.
Donc voilà, pour le hardware et l'histoire générale, on va dire, de la console, on a fait le truc.
C'est pas le meilleur hardware de Nintendo. Hein.
C'est pas le meilleur.
De mon point de vue, mais c'est pas...
Stop.
Je voulais en parler en face. La concurrente qui est sortie, c'était une bête de course, faut l'avouer. La Vita, hein, je parle. La console était vraiment pas dégueulasse.
Pas que tu parlais de la Wii. Hein.
Non. Oh putain. La Vita, c'était vraiment pas dégueulasse. Et... Genre, je sais pas si c'est juste l'argument de la 3D ou la force marketing de Nintendo ou enfin tout simplement les jeux. Oui, c'est les jeux, faut pas chercher plus loin. Mais t'as, encore une fois, la petite console à la rue niveau perf vis-à-vis de la concurrence
et niveau
les
finition.
A enterrés.
Bah, en fait, alors,
et niveau finition, ouais. Moi, les a enterrés.
Pour moi, il y a deux trucs. C'est que Monster Hunter est sorti sur 3DS et pas sur PS Vita.
Ouais, alors ça leur a fait mal.
Ça, tu perds le marché japonais, et en fait, Sony a jamais poussé la PS Vita en dehors du Japon. Je suis même pas sûr qu'il l'ait fait au Japon.
Sony, ils ont sorti la Vita, puis après, ils l'ont abandonné.
Enfin, tout le monde l'a oublié, y compris Sony.
Non, ils avaient une vraie carte à jouer, ils ont été cons.
Je sais pas si pourquoi ils se sont désintéressés comme ça de la PS Vita, parce qu'effectivement, ça.
Et d'ailleurs, la PS Vita qui avait un peu le même syndrome que la 3DS, à savoir on met tous les trucs gimmicks technologiques du moment sur les téléphones dans sur notre console.
Mmh. Oui.
Il y avait même un écran tactile à l'arrière.
Tout à fait.
En plus de celui à l'avant.
Qui sert dans deux jeux et demi. Pour de vrai, hein, je veux dire.
Bah, c'est vrai. Mais tiens,
puis
ouais,
après, tu
cool.
sors un truc qui se branche sur la télé mais qui lit tes jeux PS Vita, sauf qu'il n'est pas compatible avec tous les jeux parce que. Oh, putain.
Après, tu ressors les jeux PS Vita sur PS4.
Ouais, bon, voilà. Bon, bref, la PS Vita. On a fait une rétrospective PS Vita, mais elle est morte depuis cette musique.
Ça reste globalement les deux dernières consoles portables qui, clairement, se sont bouffées la concurrence des jeux sur smartphone. Hein.
Oui, oui.
C'est surtout ça qu'il faudra retenir, c'est que la 3DS n'a pas fait un score de fou par rapport aux deux grosses portables de Nintendo qui sont la Game Boy et la DS. Mais c'est aussi une période où, en face, la vraie concurrence, c'était l'iPhone, quoi.
Oui. Non, mais clairement.
Et aujourd'hui, on en rigole, hein. C'est Oscar qui montrait les chiffres de Zynga il y a quelques années, tout le monde disait « faut investir dedans, ça va exploser et tout ». Tu vois, dans la situation où ils sont aujourd'hui, ça fait rigoler.
Ouais, en fait,
ils ont explosé en vol.
Eux, ils rigolent pas, mais ouais, mais c'est exactement ça, quoi.
Bref, on va faire une seconde pause musicale et on va parler de quelques jeux. On a fait une sélection un peu large, mais pas si large que ça.
Ouais, il y en a où on pourra passer très vite.
Il y en a où on va passer très vite, il y en a où on va peut-être s'attarder un petit peu plus. Mais voilà, on va parler de quelques jeux marquants. Donc si vous découvrez la 3DS avec cet épisode du Dojo Bar qui est pas en direct...
léger différé, monsieur, c'est tout.
On sortira dans deux semaines.
Parce que je suis pas du tout à la bourre.
Donc
voilà, si vous le découvrez, bah, ça peut vous donner une idée de la librairie, et si vous avez envie de découvrir. Alors ce qui est bien avec la 3DS, on disait c'est rétro-compatible DS, donc c'est vrai qu'avec une machine, on a déjà accès à une librairie complètement folle, parce que la DS c'est quelques milliers de jeux, je pense qu'on est plus aux alentours de 2000 ou 3000 jeux, alors il y a beaucoup de shovelware dans le lot, mais il y a quelques petites perles à trouver. Sur 3DS, il y a peut-être moins de jeux, mais il y a quand même des choses très marquantes et très intéressantes à avoir.
Ça a moins été la poubelle sur la fin, ouais.
Ouais, on en parlera tout de suite après cette deuxième pause musicale, où on va écouter un extrait de la bande originale de Fire Emblem Awakening, le morceau s'appelle Training, et on se retrouve dans un petit peu moins de 3 minutes, à tout de suite. Et nous voilà de retour. Et donc on va parler un petit peu plus des jeux, des grands jeux marquants de la 3DS. Alors si vous en avez d'autres qui vous viennent à l'idée, vous avez le droit de vous lâcher et d'improviser. Moi j'ai la petite liste que j'avais faite au départ et j'ai récupéré un petit peu ce que vous m'aviez redonné en vrac pour essayer de faire un truc à peu près cohérent. Je vais commencer par... Alors la liste n'est pas dans un ordre particulier, hein, je le précise. Il n'y a pas d'ordre chronologique ou quoi, c'est vraiment... un vrac de quelques trucs un petit peu notables. Je vais commencer par Mario Kart 7.
Il était trop bien.
Ben, moi, je sais, par rapport à Mario Kart DS...
Eh ben, j'ai bien aimé qu'ils aient retravaillé les dérapages.
C'était mou.
Et voilà. Ben, c'est non, là, ce que je me disais.
C'est celui qui a introduit le deltaplane, hein, c'est ça?
Ouais.
Ouais, je confirme, je confirme, j'ai adoré.
Alors, moi, j'ai passé de très bons moments avec Nintendo Man à jouer en ligne, mais c'est vrai que par rapport aux autres épisodes, je le trouve mou, quoi. Ils ont réintroduit les pièces aussi, qui sont une bonne mécanique, je trouve. Mais c'est pas...
En fait, il y a quelques très très bonnes courses, notamment, je pense au marché Shy Guy, tu sais, qui est dans
le Moyen-Orient. Le souk Maskas.
Voilà, il y a quelques très 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 bonnes courses, je trouve. Celle qui a été refaite sur Mario Kart 8, la ville Bowser, là, tu sais, avec des éclairs partout.
Bowser, Koopa Police.
Koopa Police.
La course F-Zero.
C'est aussi le premier Mario Kart dans lequel il y a les descentes, puisque ces fameuses courses qui ont point de départ, un point d'arrivée et juste trois sections.
C'est les deux courses qui sont sur l'île de Whisper Resort. Mais c'était des très bonnes idées et c'est dommage qu'ils n'en aient pas fait plus dans Mario Kart 8.
C'est vrai que, en même temps, t'as une des meilleures courses du jeu qui est une descente. Hein, le truc Wario, la montagne Wario.
Ouais.
Exceptionnel.
Très très chouette.
Bref, donc oui, Mario Kart 7, moi je suis assez d'accord. Il y a de très bonnes idées dedans. Il y a des choses que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que Mario Kart DS, que j'ai vraiment saigné, mais alors saigné. Je dois avoir 800 heures sur Mario Kart DS. C'est vrai que Mario Kart 7, je l'ai fini et il m'a un peu tombé des mains derrière. Quoi.
Ouais, c'est...
Vous avez joué sur le online ou pas?
Ouais.
Oui.
Ouais, je sais pas si on a le temps dessus. Hein. Mais Mario Kart 7, pour moi, ça... alors déjà, hein, c'est un peu le brouillon de Mario Kart 8, qui va clairement reprendre les idées du 7 et va clairement améliorer le tout.
Non, mais on est d'accord, c'est vrai, oui.
Mais aussi, c'est un peu. Alors, pour moi, c'est très méchant ce que je vais dire, mais c'est un peu souvent l'image de beaucoup de séries Nintendo sur 3DS. Qui sont pas mal, mais qui tournent autour d'un gimmick qui marche pas forcément tout le temps. Et Mario Kart 7, c'était un peu genre, tu vas pouvoir customiser ton véhicule avec les différentes pièces. Tu auras le deltaplane, tu pourras passer sous l'eau. Et en fait, quand tu joues, tu fais, ça change pas grand chose. Et c'est dommage.
Bah, c'est dommage, oui et non, parce que je pense que le problème, c'est de pas trahir le.
Et tu vois, on pourrait dire la même chose de Mario Kart 8 en vrai. Sauf que Mario Kart 8, en fait, derrière, je trouve que c'est tellement agréable d'y jouer que ça me choque.
Oui, voilà. Le gameplay est tellement réglé au poil de fion que c'est compliqué de venir faire notre belle chose, quoi.
Faites gaffe à la dernière fois qu'ils ont fait un truc où ils disaient putain, on a tellement atteint un sommet qu'on sait pas comment faire une suite.
Breath of the Wild.
Non, c'était F-Zero, je pense.
Ah merde.
Bah, en même temps, quand tu regardes comment Mario Kart est utilisé depuis Mario Kart 8,
peut-être un jour il y aura F-Zero. Putain, s'ils font un F-Zero X Battle Royale avec juste le mode. Le mode F-Race, là où on peut éliminer les 30 concurrents, je pense qu'il y a moyen de. Il va y avoir du souillage de pantalon. Hein. Très clairement. Je pense que Cyril, ça va en mettre partout. On a eu deux générations de Pokémon, si je dis pas de bêtises. Donc on a eu Pokémon XY en tout début de console.
Alors, 3.
Mais alors, oui, alors je vois pourquoi 3, mais en fait.
J'aurais dit 2,5, mais.
Oui, 2,5.
Il y a Soleil et Lune.
Alors XY, c'était en 2013, c'était déjà 2 ans après la sortie de la console quand même. Hein. Parce que t'avais eu Noir 2 et Blanc 2 qui étaient sortis en 2011, 2012, je ne sais plus.
Sur DS.
Sur DS. Donc c'était compatible 3DS, mais.
Mais sur DS.
Bah, d'ailleurs, c'est la sortie de Pokémon XY que la 3DS a commencé à vraiment avoir son rythme record. À partir du moment où Pokémon a été annoncé, la 3DS a commencé à avoir son rythme de croisière.
C'est ça. On a eu Pokémon Soleil Lune, sachant qu'on a eu Ultra Soleil et Ultra Lune dans le fond.
Ouais, alors Soleil, c'est
ou
pareil.
Super Soleil et Ultra Lune, je me souviens
pas. Non, Ultra. Mais ceux-là,
Pokémon
c'était les...
Usul, comme on dit.
C'est ça. Ceux-là, c'était les couillus qui essayaient de réinventer de bousculer gentiment la licence. Ça n'a pas été bousculé aussi violemment que sur un Breath of the Wild, mais ils commençaient à essayer de sortir les fans de leur zone de confort. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui les jeux sont pas très, enfin, ont pas été extrêmement appréciés, mais ils avaient le mérite de tenter des choses.
Pokémon à Hawaï.
Et il y avait Omega Saphir et
Omega Ruby. Et Alpha Saphir et Omega Ruby,
qui sont donc les remakes.
De Saphir et Ruby.
Qui étaient ceux de GBA. Voilà.
Donc très bon remake, mais ça reste une génération qui est moins bien, et du coup le remake est moins bien que celui de HeartGold et SoulSilver.
qui était le remake de Gold et Silver sur la même Game Boy Color.
GBA. Color.
Color.
C'était la génération 2 Color et le remake était sur DS.
Mais d'ailleurs, Pokémon XY, c'était les premiers Pokémon à avoir un monde en 3D complète. Et d'ailleurs, c'est le moment où les gens vont commencer à se rendre compte que chez Game Freak, en fait, ils sont pas terribles au niveau graphisme, parce qu'avant, en 2D, ça passait.
Et ben, en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que ça reste une petite, équipe.
Ben, en fait, c'est surtout, je pense que ça a un peu cassé le délire des combats, parce que comme c'est en 3D, on s'attend à avoir des impacts réalistes, des animations de fou, et en fait, tu te rends compte que non, ils ont pas le temps de faire ça, en fait. Je pense que déjà, ils ont pas le temps.
Non, bah, ils sont petits. XY, toi, c'était tout en 3D, mais c'était quand même du déplacement gauche-droite au bas, quoi.
Ouais, parce que quand ils ont annoncé Soleil et Lune, la révolution, c'était qu'on était... on avait la possibilité de se déplacer en 360 degrés, et ça, voilà. C'était fou.
C'est complètement ouf. Bref, New Super Mario Bros. 2, le New Super Mario Bros. 2 trop.
Ouais, c'est celui des bourgeois, là, c'est ça ?
C'est celui des bourgeois,
oui. En fait, le troisième New Super Mario Bros.
Stop.
Alors... le souvenir que j'en ai, oui, à part que tu passes ton temps à ramasser des pièces, c'est un jeu de plateforme sympa, mais avec des boss nuls à chier.
Bah, ça c'est normal, ça, non ?
Non, bah, mais vraiment nul à chier.
Bon, bref. Mais oui, New Super Mario Bros. 2, c'est un petit peu l'épisode de trop. Le gimmick de gagner plein d'argent et plein de pièces, c'est très rigolo, en fait. Mais vraiment, en plus, surtout qu'il y a plein de trucs originaux avec des pièces partout et tout, donc c'est vraiment marrant. Mais ça s'épuise très très vite, en fait.
Bah, on va dire que c'est un petit peu à l'image de ce qu'a voulu faire Nintendo avec cet épisode du Super Mario Bros, quoi. Gagner de la thune.
Voilà.
Une mise en abîme. Par contre, intéressant, du Super Mario Bros 2, pour les Occidentaux, et je précise pour les Occidentaux, c'est le premier jeu Nintendo à avoir eu des DLC.
Ouh.
Mais au Japon, c'est pas le cas.
D'accord.
C'est vraiment l'épisode fric égale pognon.
C'est vraiment ça. Du coup, ça l'a vraiment enterré. C'est l'épisode pour se faire de la thune sur un concept qui marche en étant flemmard.
Bah, en même temps, c'est
vraiment ça
je suis désolé, c'est un peu ça quand même.
Oui, d'accord, c'est une mise en abîme totale de lui-même.
C'est pas, alors après, c'est pas un mauvais jeu en soi, mais c'est vrai que si New Super Mario Bros. Sur DS était un truc qui effectivement était un peu frais à l'époque parce que ça faisait des choses un peu intéressantes.
Bah, surtout, ça revenait à Mario 2D, ce qui n'était pas le cas depuis Mario World.
Tout à fait.
Tous les Mario sur GBA, c'était des remakes.
Oui. New Super Mario Bros. Wii était rigolo parce qu'il y avait le mode 4 joueurs qui était vraiment fun.
Ouais.
Plus un party game qu'un jeu de plateforme, mais t'avais quand même du jeu de plateforme un peu pointu et tout, donc c'était vraiment très sympa. New Super Mario Bros. 2, malheureusement, voilà, c'est plus compliqué. Après, New Super Mario Bros. U, bah, c'était pareil, c'était un très bon jeu de plateforme 2D. La version de luxe étant juste un vulgaire remake avec quelques niveaux en plus. New Super Luigi U. Putain, c'est trop compliqué.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Et voilà. Mario Bros. U qui est probablement le meilleur du Super Mario Bros. Hein.
Oui. En plus, mais le problème c'est que c'était sur une formule qui était déjà un peu.
Bah, en fait, c'est la même année. Tu as eu Mario Bros. 2 l'été, donc en 2012, et tu as eu Mario Bros. U
l'hiver
pour la sortie de la Wii U. Oui. Je pense qu'il n'y aurait eu que Mario Bros. U, les gens auraient moins râlé.
Peut-être. Parce qu'en fait, ça commence à ressembler à la vache à l'air.
New Super Mario Bros., le Wii, il était sorti en 2008-2009, hein.
Complètement. Autre jeu un petit peu marquant, parce qu'effectivement, ça fait partie des jeux qui ont un peu relancé la mécanique malgré tout, c'est Super Mario 3D Land.
Il y aura une version améliorée avec Mario 3D World.
Tout à fait, dans la même veine, qui aura un remake sur Switch parce que la Wii U, non, je ne connais pas.
que la Wii, tout ce qui est sur Wii U sera sur Switch, sur Xenoblade X, j'entends le truc.
C'est le fameux, on voudrait que vous fassiez la différence entre ces deux images, c'est les mêmes.
C'est la même chose.
c'est la même chose. Voilà, c'est très très curieux, mais effectivement, voilà. Donc, Super Mario 3D Land, c'est un des jeux, je pense, qui commençait à justifier l'achat de la console, parce qu'effectivement, t'avais une nouvelle aventure de Mario avec des gimmicks vraiment sympas. C'est une espèce de... Alors, c'est pas de la 2.5D, c'est plutôt de la 3.5D, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais bah, ça ressemble beaucoup à Galaxy.
C'est de la 3D, mais avec un déroulé linéaire comme en 2D, ouais. En fait. C'est du Crash Bandicoot.
C'est moins couloir, mais dans l'esprit, c'est ça. Point de départ, point d'arrivée, et voilà.
Et surtout, bah, c'est comme un peu Galaxy 2 où tu enchaînes juste des niveaux sur une carte et pas avec un hub central.
Oui.
C'est moins travaillé. C'est moins travaillé que Galaxy 2, par exemple. Ouais.
Mais ça marche très très bien quand même. C'est-à-dire, t'as vraiment des niveaux originaux, t'as des trucs très rigolos, t'as comme dans beaucoup de Mario 3D, t'as un gimmick, enfin comme dans Mario Galaxy surtout, t'as un gimmick par niveau qui est allé jusqu'au bout et qui marche bien. Et t'as vraiment de la nouveauté, du renouvellement permanent, et ça c'est vraiment très très cool.
Quand t'as fini le jeu, le jeu finit assez vite, mais quand tu peux le recommencer en plus difficile, avec des niveaux plus difficiles et compagnie, donc en fait il y a même une bonne durée de vie derrière, et du challenge.
Je suis en train de me rappeler, pour le coup, c'est un jeu où il y a certaines salles bonus qui étaient plus faciles à faire avec la 3D activée.
Oui, il y avait des gimmicks 3D, mais
oui,
même la gestion de distance était parfois plus pratique avec la 3D activée.
Oui, ça fait partie des jeux sur lesquels tu voyais vraiment l'intérêt de la 3D, mais alors après sur les niveaux où c'était conçu pour, quoi. Les trucs effectivement en 3D isométrique un peu bizarre où effectivement après, quand tu actives la 3D tu vois tout de suite où est quoi et quand tu le désactives tu galères un peu.
C'est ça, ils trichaient, ils saturaient certaines couleurs pour bien te faire chier et quand tu activais la 3D tu t'arrivais à détacher les plateformes.
Tout à fait. Super Smash Bros for 3DS.
Alors,
incroyable.
On parle d'un exploit.
Qui à mon avis
a coûté une partie de la santé de Sakurai, mais comme à chaque
fois. Qu'est-ce qui n'a pas coûté une partie de la santé de Sakurai?
Bah, en fait, les Kirby, je pense.
Et encore.
Et encore. Mais c'est un truc qui est intéressant parce que c'est un jeu qui a été sorti à la fois sur 3DS et sur Wii U. Alors c'était possible parce que c'est le premier épisode.
Parce que Sakurai.
Non, un parce que Sakurai, deux parce que Bandai Namco.
Oui, il y avait quand même eu un gros coup de patte. Hein.
Voilà. Mais c'est assez impressionnant de se dire qu'à 2 mois d'écart, tu avais un épisode de Smash Bros. 1 sur console portable qui est sorti en premier et qui sera vite oublié 2 mois après quand sortira la version Wii U d'ailleurs.
Oui, oui, mais qui avait le même contenu. Alors peut-être pas les mêmes DLC d'ailleurs. Il y avait des terrains en moins.
Il y avait des terrains différents entre les deux.
Il y avait des terrains exclusifs entre les deux. Ouais.
Il y avait
exclusif
beaucoup
à
moins
l'un et pas exclusif à chacun.
Il y avait beaucoup moins de musique sur la version 3DS parce que genre il y avait 2 musiques par terrain sur 3DS, donc quand t'arrives c'est un peu nul et tout. Et puis après t'as Sakurai qui prend la version Wii U qui fait non mais il y aura 50 musiques par terrain, t'es ok, c'est bon, on l'a reconnu, tu vois.
Cool.
Mais il y avait un mode solo qui était assez cool, qui faisait un peu penser au City Trial de Kirby Ride. En fait t'étais sur une map donc pour le coup qui était en vue de 2D, en vue Smash Bros traditionnel, tout en verticalité avec plein d'ennemis à affronter, des petits défis à remplir et compagnie. Et le but c'était de cumuler des bonus pour par exemple renforcer ta force, ta capacité à sauter comme dans Kirby Ride. Et à la fin, tu as un défi, il y a un défi à faire avec contre des ordi ou contre d'autres joueurs si tu joues en multi.
C'est un battle royale en fait. C'est un roguelite battle royale.
Bah ouais, c'est un mode rigolo. Franchement pour un mode portable de Smash Bros ça marchait bien. Et puis ils en avaient profité pour recycler les assets de l'émissaire spatial parce que t'as beaucoup de spatial présent, on va pas se mentir, hein, ils ont quand même fait ça. Donc c'était vraiment une bonne entrée en matière à Smash Bros 4, mais clairement à partir du moment où tu achètes la version Wii U...
Oui, tu te fous un petit peu de la version 3DS.
T'as le truc de la 3DS qui est pas vraiment top pour la précision, quoi.
Dans le train, quand t'avais pas de Switch, ça marchait bien.
Non, c'est ça, ça reste... Ça reste pour moi un des tours de force de la 3DS. C'est pas un jeu marquant de la console pour moi parce que, bah, en fait, c'est la supérieure version sur Wii U, mais ça reste un tour de force technique assez fou en fait. Surtout, ça restait lisible, ce qui était assez incroyable.
Mmh. T'avais le petit liseré autour des persos 3D pour les
détourer et tout ça. Mmh.
Plein de petites astuces comme ça pour rendre le jeu cool.
C'est ça, par exemple aussi, tous les personnages étaient en 60 FPS, mais pas les trophées qui étaient en 30 FPS pour gagner de la ressource. Enfin, il y a vraiment une réflexion sur cette version que je trouve assez dingue pour finalement une version dont la durée de vie dans la tête de gens a duré 2 mois. Quoi.
C'est clair. La suite, je vous le cite un peu en vrac, mais il y a eu toute la série Yo-Kai Watch
qui s'est bien vendue aujourd'hui. Et pour level 5, ils vont pas bien. Hein.
Qui a été un succès incroyable au Japon. Vraiment, les gens se sont dit c'est bon, Pokémon c'est fini. Sauf que bah, c'est level 5, donc ils ont tiré sur la corde. Et ça n'a pas tenu.
Ça n'a pas tenu. Donc je l'évoque histoire que ce soit évoqué, mais donc Yo-Kai Watch, c'était supposé être le Pokémon Killer, c'est à peu près la même formule.
Et gros succès auprès des enfants, parce que comme Pokémon, en France, c'est arrivé avec le dessin animé.
Tout à fait. Dessin animé qui est absolument atroce. Hein,
ouais, mais quand t'as 10 ans, tu t'en fous. Hein.
Ouais, mais enfin. Ouais.
Enfin, si jamais Pokémon, ça reste quand même. Maintenant, c'est mieux ceci. Hein. Mais à l'époque,
Parce qu'aujourd'hui, il s'adresse à des gens qui ont 30 ans, quoi.
Surtout, ils sont payés des vrais animateurs. Mais...
Ce que j'allais dire, aujourd'hui, le dessin animé, les gens analysent l'animation. Le scénario, ils continuent à s'en foutre. Hein.
Oui, mais de toute façon, Pokémon, le scénario.
Il y a eu aussi les remakes qui étaient alors, peut-être un peu une surprise, en tout cas pour le second.
Surtout le deuxième. Ouais.
Voilà, Legend of Zelda Ocarina of Time, donc Ocarina of Time 3D et Majora's Mask 3D. Donc autant le premier n'était pas forcément une surprise. Je dis pas qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un remake.
Mais ils l'ont annoncé assez vite.
Ça a été annoncé relativement vite. Et c'est un très bon remake qui est fait par Grezzo de mémoire. Donc ils ont retravaillé pas mal de trucs.
Les deux sont faits par Grezzo.
Ocarina of Time, il était déjà en 3D sur une 64.
Et d'ailleurs, je connais pas la version, du tout la version 3DS de Majora's Mask, mais la version Ocarina of Time est connue notamment pour deux changements principaux. Alors déjà, l'ergonomie de l'interface.
Oui.
Pour changer plus rapidement les objets, ce qui est vachement pratique dans le temple de l'eau.
Stop. Oui.
Qui est le deuxième changement, parce que dans le temple de l'eau, tu changes souvent les bottes de plomb. Et dans le temple de l'eau, ils ont modifié.
Ils ont mis des indications plus.
Ils ont mis des fils d'Ariane pour vraiment se repérer dedans.
Tout à fait. Pour que ce soit un peu moins labyrinthique. C'est vraiment. Enfin, si aujourd'hui.
Pour le trauma de tous les Américains avec le temple de l'eau. J'ai eu le même, mais pas pour les mêmes raisons.
Le temple de l'eau, c'est pas si facile que ça. Non, mais si vous devez rejouer Ocarina of Time aujourd'hui, je pense que c'est la version à faire parce qu'en fait, elle est portable et c'est quand même très agréable.
Il y a un vrai framerate.
Il y a un vrai. Alors, c'est capé à 30 fps, mais c'est quand
ouais,
même.
Ouais, à part la version 64.
Il y a quand même tout un tas de petites améliorations graphiques et sonores qui sont très agréables. C'est-à-dire que c'est un très bon remake dans le sens où ça respecte l'esprit du jeu original. Mais il y a eu quand même beaucoup de retravail, de textures, de choses comme ça, d'animations et autres, qui font que, franchement, aujourd'hui, je pense que c'est la version à faire. Voilà. Ocarina of Time, il est très bien sur N64. Hein, je veux dire, si tu l'as sur console virtuelle, t'es très content aussi, il n'y a pas de souci. La version d'origine, je peux comprendre qu'on y soit accroché. Mais très sincèrement, cette version-là est vraiment très très bonne, donc si ça vous fait pas chier en tout cas de pas y jouer sur une télé, ça vaut vraiment le coup de jouer à cette version là, c'est vraiment un excellent remake.
Y a pas de raison de ne pas y jouer sur 3DS en fait.
C'est ça.
Parce que c'est plus un lifting qu'un remake, ils ont pas vraiment repensé les choses hein, si j'ai bien compris.
Ah non, il y a très peu de choses, à part effectivement l'ergonomie dans les menus, mais c'est pas comme le remake de Wind Waker où t'as la voile rapide et tout, t'as très peu de changements sur le design du jeu lui-même. Ouais. T'as quelques petits trucs, effectivement, il y a quelques donjons qui ont été légèrement retravaillés, il y a quelques indices qui sont un petit peu plus clairs, il y a quelques séquences qui ont été un tout petit peu raccourcies, il y a quelques trucs où on te donne des indications un tout petit poil plus claires, je pense notamment au puits... adulte, enfant, je sais pas quoi. Il y a un moment où, moi je sais, quand j'étais petit, je m'étais retrouvé un peu coincé à pas trop savoir où aller. Là, je sais que c'était indiqué un peu plus clairement. Je crois qu'il y a un ou deux mini-jeux qui ont été retravaillés aussi, pour profiter du gyroscope notamment, mais pas que. Enfin bref, mais c'est... Bon, un excellent remake, vraiment, et...
Et alors Majora's Mask, du coup ?
Et Majora's Mask, c'est plus compliqué, parce que... alors, d'un point de vue technique, il n'y a pas grand-chose à en redire non plus. C'est-à-dire que finalement, Majora's Mask sur N64, même avec l'expansion pack, il y a quand même des moments où ça ramait sévère. T'as quand même des grosses limitations, t'avais du pop-up partout. Donc c'est un jeu, c'est on va dire compliqué. Même si je suis très très attaché à la version N64. Ce remake, alors t'as les mêmes améliorations graphiques, t'as les mêmes améliorations techniques, mais je le trouve un peu moins marquant.
Il y a le journal qui facilite, non ?
Il y a le journal qui a été un tout petit peu retravaillé, mais du coup, ça, c'est un peu... Enfin, c'est pas forcément une bonne chose, en fait, parce que ça retire le côté exploration et répétitivité du truc qui fait partie de l'ADN de Majora's Mask.
Il y a aussi le cadran qui est plus compréhensible, il me semble.
Le cadran est plus grand, pas forcément plus compréhensible. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé ça particulièrement plus compréhensible. Je crois que tu as... alors, je rappelle que la version japonaise de Majora's Mask, tu ne pouvais pas sauvegarder au niveau des hibou.
C'est vrai, il y avait ça.
La version européenne, enfin la version occidentale, tu peux sauvegarder au niveau des hibou. La version 3DS, en fait, comme tu peux... Alors, tu peux pas sauvegarder n'importe quand, mais comme tu peux mettre ta console en veille n'importe quand, tu tues un petit peu le truc aussi. Voilà. Et... ça fait que c'est un peu bizarre. Alors c'est très bizarre de dire ça, mais le fait que ce soit plus accessible, finalement, ça tue un des trucs du jeu qui est que t'as plus ce stress de putain, il reste que 3 heures pour finir ce donjon.
Ouais, ça fait souvent partie des choses que les gens aiment pas sur Majora's Mask, mais qui là, c'est cette radicalité qui est plaisante.
C'est un peu ça.
Pour moi, c'est la même chose que le mode facile de Dark Souls.
C'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un peu dommage parce que quand t'as pas ce stress-là, finalement, les donjons sont sont, je vais pas dire faciles, parce qu'il y a quand même quelques donjons bien velus, je pense notamment au donjon de la flotte, qui est quand même un truc assez...
Le dernier est quand même réputé pour être assez maboule et te retourner littéralement la tête.
Celui-là aussi, oui, effectivement, il y en a deux. Mais en fait, à part le premier donjon qui est... Non, mais même le donjon de la montagne, il est... Ah oui, non, il est costaud quand même. Non,
oui, on sait.
Après, c'est toujours pareil, ça dépend ce que tu fais. S'il y a une nouveauté, par contre, qui est vraiment intéressante sur la version 3DS, c'est que tu as les fées, les petites fées qui sont dans les donjons, qui est en fait le deuxième objectif d'un donjon, c'est de récupérer les 15 petites fées, et elles sont indiquées sur la carte. T'as un objet, alors je sais plus si c'est un objet ou si c'est par défaut, mais je crois que c'est un objet, c'est-à-dire que t'as genre une carte des fées que tu peux débloquer dans un des coffres, qui te permet d'avoir les fées qui sont indiquées sur la carte. Et ça, c'est quand même sympa, parce que trouver toutes les fées dans Majora's Mask, dans chaque...
Ouais, c'est velu. Hein.
C'est un peu chaud. En général, t'en trouves 14 sur les 15. C'est à peu près la constatation que j'ai faite. Voilà, donc, je suis plus partagé sur Majora's Mask. J'ai relancé avec plaisir Majora's Mask sur N64 il y a quelques années, maintenant. Et vraiment avec plaisir, j'ai pas fini le jeu, mais j'ai vraiment kiffé ma race, alors que le remake 3DS, plus compliqué. Plus compliqué. Voilà. Mais, bon, ça empêche pas que, voilà, les gens l'avaient réclamé après le remake d'Ocarina of Time, il a eu lieu. Pareil, une des très bonnes façons d'expérimenter Majora's Mask aujourd'hui, si vous avez pas envie d'y jouer, enfin, si le fait de ne pas y jouer sur une télé ne vous dérange pas, la version 3DS, c'est quand même une valeur sûre. Maintenant, sachez que vous aurez pas vraiment l'expérience originale, parce que voilà, c'est plus compliqué.
Après, ça reste Majora's Mask avec toute la bizarrerie propre au jeu. On n'est pas en train de dire qu'ils ont changé tout le scénario. Hein. C'est vraiment plus les petites facilités.
C'est ce qui... Enfin, moi, je trouve que ça coupe un petit peu. Alors, autant le fait de sauvegarder au hibou, c'est quand même un peu indispensable, parce que putain, la version Jap, je pense que c'est très très chaud.
Ah oui, non, ça, c'est n'importe quoi.
C'est, voilà, là, c'était vraiment trop. Autant, je trouve que sur 3DS, c'est peut-être pas assez. Voilà. Après, il y a quand même quelques trucs très sympas, notamment la lune. Quand on se retrouve sur la lune, je vais pas spoiler le jeu, surtout qu'on a fait une émission dessus, donc si vous voulez vous spoiler un peu, vous pouvez aller revoir, réécouter cette émission.
L'émission fleuve, vous l'avez coupée en deux parties tellement on a parlé.
Ouais, c'était la folie. Et le passage sur la lune, qui est déjà un truc sur N64 qui te catapulte en dehors du truc, c'est-à-dire que ça te prend par surprise, littéralement, et tu sais vraiment pas qu'est-ce que tu fous là. Là, sur 3DS, avec la 3D stéréoscopique, je te garantis que l'effet est encore plus saisissant, parce que t'es vraiment transporté dans un truc qui sort de nulle part. C'est extraordinaire. Surtout que là, il y a eu pas mal de choses de refaites en termes d'effets de lumière et autres, pour rendre le truc justement encore plus onirique, encore plus perché. Donc voilà, il y a quand même de très bonnes choses dedans.
C'est vrai que c'était bien perché à l'époque.
Et on va arrêter de parler de Majora's Mask, sinon on va encore y passer 2 heures.
Ouais, passons, parlons du meilleur Zelda de la 3DS.
A Link Between Worlds, et effectivement, c'est le meilleur Zelda de la 3DS, c'est de très loin.
Et qui ressemblait quand même beaucoup à un remake de Link to the Past, et quand tu joues, ressemble beaucoup à un remake de Link to the Past.
C'est une vraie suite.
Mais c'est vraiment un super jeu. Le retour à une formule 2D vraiment bien maîtrisée. T'as les petites idées à base de... en fait, tu vas devoir louer tes objets pour pouvoir avancer dans les donjons, qui est pas mal, mais qui est encore un peu le cul entre deux chaises. Mais moi, c'est un jeu que j'adore.
Voilà. Moi, c'est un jeu que j'ai bouffé pendant les vacances, et en fait, je l'ai démarré genre le lundi matin, et je l'ai fini l'été mardi midi. C'est le jeu qui se bouffe, mais à une vitesse folle, parce que c'est tellement plaisant.
En début de segment, là, je parlais des jeux Nintendo qui mettent un gimmick, ça marche pas très bien, et Link Between Worlds, il met un gimmick, ça marche super bien.
C'est ça. Le fait de passer entre les deux mondes, le fait de passer dans les failles, d'être en 2D, en 3D, ouais. C'est vraiment original. Le seul truc très bizarre avec A Link Between Worlds, qui est encore une fois un excellent jeu, donc on vous le recommande très 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 chaudement, c'est que dès que tu vires la caméra, je sais pas si tu avais vu ces trucs-là, pour pouvoir faire cette vue-là, en fait, si tu regardes la caméra sur le côté, tout le monde est penché.
C'est même Nintendo qui l'avait montré.
C'est horrible, quoi.
C'est dans un Iwata Ask qu'ils avaient montré ça. C'est à la bonne époque des Iwata Ask.
Bref, alors il va falloir parler de Fire Emblem, puisque Fire Emblem Awakening était censé être le dernier épisode de la série, s'il ne marchait pas, et finalement il s'en est vendu des kilotonnes.
Je pense que la 3DS restera dans l'histoire comme étant aussi la console qui a fait exploser Fire Emblem.
En Occident, surtout.
Partout, en fait. Parce que même partout. Au Japon, c'était n'importe quoi. Et il y a quand même eu une tripotée de jeux sur cette console, parce qu'on a eu Fire Emblem Warriors.
Stop.
Si on ne pas rire.
Bon, Awakenings.
Donc Awakening, qui
excellent
est le...
jeu s'il en est.
Excellent jeu s'il en est, qu'on retiendra comme probablement un des Fire Emblem les plus populaires de son époque. Enfin, qui est à mon avis être un des Fire Emblem les plus populaires, qui a alors vraiment relancé la licence. Parce que
pour
c'était vraiment.
Le scénario, l'histoire de la chronologie, les croisements possibles entre les personnages.
Le design général qui est assez fou. Hein.
Et c'est un Fire Emblem qui a vraiment été pensé à la fois comme une porte d'entrée pour des gens qui n'ont jamais joué parce qu'il y a beaucoup de mécaniques qui facilitent la vie. Il y a un mode casual, il y a la possibilité de recruter des unités, ben voilà, comme j'ai dit, au Street Pass, aussi au Spot Pass, où tu peux recruter des personnages d'anciens épisodes. Ils ont fait venir des mécaniques d'autres épisodes, notamment la mécanique des enfants, qui est probablement celle qui a fait le plus de succès, puisque tu peux marier des personnages pour qu'ils aient des enfants. Et ça a très très bien marché, vu la popularité des waifus. Des waifus du jeu. Et c'est un jeu qui est ultra généreux dans son contenu, ses mécaniques, qui est le premier jeu Nintendo à avoir des DLC au Japon, quand on est japonais. Et il y en a eu beaucoup. Bon, d'ailleurs.
Oui.
C'est même imbuvable. C'était 1€ la carte. Comme ça.
Ouais, non, c'était horrible. Et a été suivi de peu par Fates, probablement le Fire Emblem le plus ambitieux avant Three Houses. Parce
avec
que
son collector de bâtards.
Son collector de bâtards.
Qui est un jeu quand même qui. Alors, qui en tout cas, dans la communauté des fans de Fire Emblem, même les gens qui ont découvert Fire Emblem avec Awakening, c'est compliqué, Fates. Hein.
Fates s'est séparé en trois jeux, en fait. Il y a Birthright, donc héritage en français, me semble-t-il, qui en gros correspond à la campagne facile.
C'est le mode facile.
Tu as Conquest, qui est conquête en français, hein, qui correspond à une espèce de mode difficile, en fait.
Et ouais, la campagne où, pour le coup, ils ont décidé de prendre les pires idées de level design, enfin les pires idées, les idées les plus machiavéliques, et tu souffres.
Tu souffres beaucoup. Et donc, le Révélation, qui est en fait l'espèce d'épisode bonus, qui est un peu le cul entre deux chaises.
Ouais, qui est pas fou, hein. Enfin,
Révélation, j'ai pas fait Révélation. J'ai
pour
fait
moi,
Conquest,
c'est le plus
j'ai mauvais. Fait Birthright, mais j'ai pas fait Révélation.
Pour moi, c'est le plus mauvais des trois.
Merde.
Parce que et surtout parce que les cartes sont vraiment pas terribles.
Voilà, non, et donc,
même niveau scénario, Héritage et Conquête, il y a certains passages du scénario où ça pose les couilles sur la table.
Alors moi j'aime beaucoup Conquête parce que la fin c'est quand même un gros massacre. Enfin j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions, enfin d'émotions non peut-être pas, mais.
Mais ce côté, il y avait un côté tu ne pourras très, pas sauver tout le monde.
Très tendu, très revanchard, en fait, avec les... Parce que selon la version, en Conquête Héritage, t'es pas dans la même équipe.
Voilà.
Et donc, l'équipe dans laquelle tu affrontes l'autre.
Voilà, c'est l'histoire un peu d'Hamlet, c'est-à-dire que soit tu trahis le père, soit tu trahis l'oncle. Mais c'est un peu ça, en fait. Tu es issu de la nation des gentils, t'as été kidnappé par les méchants depuis ta plus tendre enfance.
Tu penses que tu es de la nation des méchants, mais
tu penses que tu es de la nation des méchants, alors qu'en réalité, tu es de la nation des gentils. Et donc, il faut que tu fasses un choix. Soit tu rejoins les gentils, donc ta famille, d'où le nom d'ailleurs héritage, c'est-à-dire ta vraie famille. Soit tu restes avec ta famille adoptive, donc tu trahis soit l'un, soit l'autre, et tu finis par massacrer l'autre. Bon.
Ouais,
et Révélation, c'est tu choisis ta propre voie, c'est-à-dire tu dis, bah non, je vais faire ni l'un ni l'autre, et puis voilà.
Tu finis par recruter tout le monde.
Tout à fait.
Mais c'est celle qui est censée révéler tous les éléments du scénario qui étaient restés obscurs dans les deux autres routes.
Ouais, vite fait.
Il fallait mieux pas. Parce que...
Ouais, en fait, Fate est quand même réputé pour être probablement un des pires scénarios de la série. Parce qu'ils ont voulu en faire trop. Mais d'ailleurs, c'est un peu le résumé de Fate hein, par rapport à Fire Emblem. C'est qu'ils ont voulu en faire trop, mais partout. Et en fait, il y a un moment, le jeu, il est.
Il y a un peu boursouflé.
Mais... pour souffler de partout, même les mécaniques, des fois, t'as des trucs de fou à base de je modifie toutes tes statistiques et tu dois anticiper 4 moves à l'avance pour comprendre en fait que si ton ninja t'attaque, tu vas te faire tuer par le mec d'après, donc faut que tu tues le ninja.
Mais cette idée de péter le scénario en plusieurs, ça donnera Three Houses.
C'est mieux fait, c'est plus intéressant.
Et c'est sur une seule cartouche.
Oui, parce que c'est ça qu'on n'avait pas dit, c'est que en fait, Héritage et Conquête, c'est des versions Pokémon.
T'as le collector aussi, ouais.
Moi j'ai le collector, j'ai que sur une seule
cartouche. Le collector avait un vrai intérêt pour ça. Il y avait trois jeux sur la cartouche.
Oui, ce qui est dommage d'ailleurs, c'est cette division en deux cartouches différentes. Elle rend le truc stupide, puisque à la base, quand Iwata l'a présenté, ils ont dit c'est un jeu dans lequel vos choix auront des conséquences. En fait, le seul choix du jeu,
il est l'achat du choix.
C'est l'achat. À partir du moment où tu as choisi ta cartouche, t'as plus de choix en fait. Et t'as plus de choix possible, et du coup, tu joues un Fire Emblem de façon très linéaire.
C'est même pas vrai. Des fois, t'es obligé de choisir des cartes en option et les mecs que t'emmènes.
Et puis surtout, tu dois choisir qui est-ce que tu dois te marier.
C'est important.
Et qu'est-ce que tu dois poupouner avec le jeu
nous n'évoquerons pas Fire Emblem Echoes.
Et qui pourtant, et je pense...
qui est un remake déjà.
Qui est un remake de Fire Emblem Gaiden.
Le deuxième jeu sur NES, après Fire Emblem Gaiden.
Il y a un jeu assez atypique dans la série, qui je pense est un remake qui a été fait pour pouvoir tester des trucs pour Treehouses, d'ailleurs. Ouais. Ah ouais. Mais que je conseillerais plus que Fates. Parce que moins tiré par les cheveux, beaucoup plus facile à appréhender, je trouve, en termes d'histoire, de mécanique, de scénario. C'est pas les meilleures cartes, mais c'est un Fire Emblem à l'ancienne qui fonctionne très très bien.
C'est celui qui a introduit le rembobinage.
Ouais, aussi. Et ben, par contre, c'est aussi celui avec des donjons. Et ça, c'est une idée de merde qui, j'espère, ne sera jamais utilisée à nouveau.
On va passer à Bravely Default, Bravely Second, qui est donc un RPG. Donc moi, je m'en tape. Mais
alors,
s'il y a quelqu'un qui veut en dire un mot.
Bravely Default, qui à l'origine est sorti en 2012 au Japon, dans une première version, qui s'appelle, je sais plus comment, au Japon, bref.
Bravely Default.
Et qui, je crois que c'est Where the Fairy Fly. Bah, tu veux vraiment le nom, c'est les Japonais qui font l'anglais, quoi. Et qui sera ressorti, je crois, un an après. C'est la version qu'on aura eu en Europe dans une version qui s'appelle Force the Sequel. Qui nous, on aura en Europe sous le nom de Flying Fairy, je crois. Et qui est un chouette RPG, très à l'ancienne, avec un système de classe comme dans les vieux Final Fantasy, que j'ai énormément aimé sur ses deux premiers tiers et qui.
C'était détestable sur le dernier.
Et ouais, le dernier tiers, si compliqué. Alors, je trouve que la récompense à la fin est quand même plutôt satisfaisante, mais il faut quand même. Alors, bon, le jeu a 7 ans, donc on va pouvoir y aller sans problème. Enfin, ce qui se passe, c'est qu'à partir du dernier tiers du jeu, tu penses que tu as fini le jeu, puisque tu as libéré les 4 cristaux, blablabla, le monde est sauvé. Tu tombes dans une faille, et tu te retrouves dans le même monde, et tu dois recommencer.
C'est de la merde.
Et tu dois... Alors, ça va plus vite, puisque tu as désormais accès à tout, tu as l'aéronef, tu es surpuissant, mais...
T'es quand même obligé de tout retaper.
Je le refais 4 fois.
Super.
Là, c'est ça le pire, en fait. Le problème, c'est pas de devoir le refaire, c'est de devoir le refaire 4 fois pour accéder à la refin.
Bref. Détective Pikachu, qu'on retiendra surtout pour le film.
Pour le film, exactement.
Pour le film, ouais.
Mais voilà. Le jeu est très cool, quoi. C'est un petit jeu d'enquête sympatoche, et ça a donné le film derrière. Donc
pourquoi pas.
Bon
On m'a suggéré Dragon Quest 11.
Juste pour le fait qu'il est sorti qu'au Japon. Et avant qu'il soit semi-disponible dans la version Switch. Mais voilà, tu avais un gros DQ canonique sur 3DS.
C'était la seule version où tu pouvais jouer en 3D et en 2D.
Tout à fait. Kid Icarus Uprising, alors ça fait partie. Donc Kid Icarus, c'était un gros rail shooter, quoi, en gros.
C'est un spin-off de Smash Bros.
Alors quand je te l'ai proposé, j'ai juste dit avec son support de merde pour les gauchers.
Oui, je confirme,
c'était une horreur. C'était une horreur.
Spécial caisse dédiée Méduse aussi qui est
gaucher. Et Antix aussi, puisque moi aussi je suis gaucher.
Oui, je sais, t'es aussi gaucher.
On est tous gauchers. Putain, mais quel jeu de merde pour les gauchers.
Moi je suis droitier, j'ai pas de problème.
Mais va te faire foutre. Et pourtant, c'est un excellent jeu, j'ai adoré y jouer.
C'est un excellent jeu, moi le seul truc c'est que j'ai rien compris au scénar.
Mais personne n'a rien compris au scénar, mais c'était drôle.
Non, mais ça tchatche pendant que ça tire de partout.
Qu'est-ce que tu veux te concentrer sur le scénar?
D'ailleurs, c'est un des grands regrets du jeu, je pense. Il n'y a pas de version française. Et je pense qu'on irait vraiment gagner parce que réussir à écouter les dialogues pendant que tu te fais canarder dans tous les sens.
Non, mais ça marche pas. C'est-à-dire que lire les sous-titres, ça marche pas parce que t'es en train de canarder. Écouter les mecs, ça marche pas parce que t'es en train de canarder. Donc c'est juste, tu les entends pas, en fait. Hein, c'est con, hein, mais voilà. Donc moi je suis désolé, c'est le jeu où... Voilà, le seul truc que moi je trouvais absolument génial dans ce jeu, c'est la difficulté où tu sais, tu choisis un plat de plus en plus épicé avant d'y aller. Ça, je trouve que c'est génial, la métaphore est assez géniale déjà.
Et ensuite... c'est un jeu qui a tenté de vendre des cartes de réalité augmentée, oui. Ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché, mais c'était cool.
Et puis il y avait un mode multijoueur qui était assez cool aussi en ligne. T'avais... Alors c'est un jeu Sakurai, donc ça ras la gueule de contenu, de possibilités, parce que t'avais des armes que tu peux débloquer, que tu pouvais fusionner pour les rendre plus puissantes.
Dizaines de types d'armes, c'était n'importe quoi. C'était le genre n'importe quoi.
C'est vraiment un truc de fou, et j'aimerais, franchement c'est un jeu que j'aurais aimé avoir sur Wii en fait, parce qu'il aurait été vachement plus sympa avec le pointeur de la Wii.
Moi je pense sincèrement qu'un remake de ce jeu là sur Switch pourrait être vachement sympa.
Ou un second épisode. Quand Sakurai sera libéré du... Bah jamais en fait.
Donc, Sakurai si tu nous écoutes. Luigi's Mansion 2, alors qui n'est pas l'épisode le plus foufou, mais qui a relancé la série Luigi's Mansion 2, et ça fait plaisir. Enfin Luigi's Mansion.
C'était un très bon jeu. Je trouve que meilleur que le premier jeu.
On va dire qu'il a d'autres défauts. Hein.
Il est adapté au format portable.
Ouais. Moi, je me souviens avoir passé un bon moment. C'est un bon jeu d'aventure à énigmes.
C'est ça. Mais c'est pas la folie non plus. Et notamment, il a quelques défauts. Donc tu fais quand même beaucoup d'allers-retours dans des manoirs vides. Hein.
Donc, oui, mais en même temps, j'ai envie de te dire quand c'est les fantômes. Hein.
Lol, lolilol. Le remake de Metroid 2, alors ça fait plaisir parce que c'est quelque chose auquel on s'attendait
surtout,
pas vraiment.
Surtout après le Federation Force.
Ah, c'est marrant, il n'était pas dans la liste.
Stop, il n'était pas dans la liste.
Mais il fallait citer, je l'avais gardé derrière moi.
Alors moi, Metroid 2, c'était un truc très drôle, c'est que je l'ai fait en allant. J'avais une mission en République Dominicaine et en fait, j'ai fini le jeu aller-retour dans l'avion. Voilà.
Okay.
Donc j'ai fait la moitié du jeu à l'aller dans l'avion, l'autre moitié du jeu retour dans l'avion. Ça marchait très bien. Voilà. Très agréable à jouer, peut-être un poil répétitif sur la fin, mais franchement, alors pareil, un peu la même remarque que sur les remakes de Ocarina of Time et Majora's Mask, t'as un vrai remake qui respecte plus ou moins l'esprit du premier, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins aride que la version Game Boy qui est quand même...
Enfin, ça me serait tard, c'est... sur Game Boy quand il réfléchit.
Ouais, c'est chaud, faut s'accrocher. Là, honnêtement, si vous devez en faire un, c'est un peu comme Metroid Zero Mission, qui est un remake de Metroid NES. Oui, faites le remake. Honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Ça garde tout à fait l'état d'esprit du premier, mais vous avez quelques bonus d'accessibilité, on va dire. Voilà, c'est quand même largement plus jouable et plus intéressant. Après, si vous êtes curieux, faites le remake, essayez d'aller faire la version Game Boy, vous allez voir, vous allez retrouver plein de similarités, et vous allez voir que l'esprit y est, en tout cas. Même
et
si
dans le collector, il y a un code pour charger la version Game Boy.
Oh là là, ça c'est bien, ça.
Et fait amusant, ça reste quand même le Metroid qui a un remake officiel et un remake non officiel.
Tout à fait. Oui, puisque c'est quoi, c'était
AM2R, Metroid 2 qui s'appelait AM2R avant l'annonce du remake et qui du coup apporte vraiment son nom maintenant parce que c'est Hanover Metroid 2 Remake.
Ouais.
Mais du coup, il porte très bien son nom maintenant et qui lui par contre est en 2D avec les assets, enfin plus ou moins inspiré des assets de Zero Mission.
Des assets de Zero Mission bien repompés. Mais c'est pour ça qu'il s'est fait tacler.
Ouais, de toute façon, c'est surtout parce que c'est un fan game avec une licence Nintendo. Hein,
on est bien d'accord. On me dit Monster Hunter. Alors, moi personnellement, c'est avec Monster Hunter sur 3DS, j'en ai rien à foutre.
Pareil, j'aime pas, mais c'était une date.
Ah, mais surtout, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est ça qui a fait la différence entre la PS Vita et la PSP. Hein, c'est que Monster Hunter, il n'est plus sur PlayStation.
Alors,
et il y en a eu beaucoup des Monster Hunter sur 3DS.
Il y a
3,
petit...
4 générations.
3 Ultimate de mémoire, parce que 3 d'origine est sorti sur Wii. Donc tu as eu le 4, je pense qu'il y a eu une variante du 4 qui est sortie à un moment. Et tu as eu le Génération.
Et donc il y a un petit bonbon de Monsieur Mecton qui nous a dit Radiant Historia Perfect Chronology. Je ne connais pas du tout.
Alors ça, c'est trop bon.
Alors le jeu DS, c'est génial.
Il était difficilement trouvable à une époque et vu qu'il s'est vendu à la vitesse de la lumière quand ils l'ont sorti, ils l'ont ressorti et on le trouve plus facilement aujourd'hui. C'est la même chose que la version 3DS avec un scénario bonus sur la fin. Sans trop en dire. Alors, le seul truc, c'est que le jeu reste en anglais. Hein. Mais si vous avez aimé Chrono Trigger, foncez dessus. C'est un RPG D'accord. avec un bordel temporel et c'est vraiment vraiment cool.
Ah, alors pour avoir fait la version DS, c'est vraiment chouette. Le scénario est plutôt intéressant, je trouve. C'est vraiment pas un cliché de Japanime, quoi.
Non, ça commence. Enfin, il y a certains. Dans le début, tu te dis ok, il y a quelques clichés niais, mais très rapidement, ça introduit des problématiques très adultes et on se prend vraiment dans l'histoire.
Bah en fait, déjà, la petite différence avec un RPG japonais habituel, c'est que le héros il est adulte et c'est genre une espèce d'agent secret, genre du service renseignement slash service sombre du royaume local, quoi.
Mmh.
Déjà, ça pose des bases aussi d'un personnage qui est pas...
Est-ce qu'il est blanc.
Est-ce qu'il a les cheveux longs? Parce que si c'est ça, c'est
non.
Lui le méchant. Hein.
Non, non.
Oh, merde.
Ah non, le méchant,
c'est un Shulk. Hein, il ressemble à Shulk.
C'est un Shulk qui a pris 5-6 ans, quoi.
Voilà. On m'a soufflé également...
Très bonne transition, d'ailleurs.
WarioWare Gold Rhythm Paradise Megamix. Donc effectivement, Alors c'est peut-être pas l'âge d'or de ces jeux-là, parce que
Rhythm Paradise, c'est best-of. Vraiment...
C'est les best-of. Ouais.
Et ça vaut effectivement le coup parce que les Rhythm Paradise, t'as une version Game Boy Advance.
Il y a Game Boy Advance, DS et Wii pour Rhythm Paradise et WarioWare, tu as tout le GBA, DS
et voilà. Donc là, ça fait une espèce de. Alors, c'est toujours pareil, c'est pas un remake, c'est pas un machin, mais c'est une espèce effectivement de gros mix, de gros best-of et ça marche très bien.
Si vous voulez découvrir une de ces deux séries, prenez ces épisodes.
Et, alors, dans les best-of, il y a aussi Super Mario Party The 100.
Oh mon dieu!
Bon, qui est pas si mal en fait, hein. Techniquement c'est rigolo parce que c'est vraiment les 100 meilleurs jeux de Mario Party, les 100 meilleurs mini-jeux, et il y a vraiment des trucs rigolos, notamment Chop Sack, hein, le jeu de l'enculé, que vous connaissez tous, et il y a, le très fabuleux Pouet Pouet avec le A, que personnellement j'ai toujours appelé Pouet Pouet avec le A.
Après, est-ce que Mario...
Sticker Star.
Mario Party, c'est pas genre le concept de jeu antinomique d'une console portable.
Bah, tu faut que tu joues avec tes potes à Mario Party The 100.
Ça.
Ça marche pas. Je le note juste pour la. C'est juste pour le comment dire le style et pour finir là-dessus. On a effectivement quelques portages Wii sur 3DS, qui est quand même un truc assez craqué du slibar quand il réfléchit un peu.
Alors, surtout un.
Surtout un. Donc, on a Donkey Kong Country Returns, qui marche très bien sur 3DS. Et en
plus, aurait été et la meilleure version.
Tout à fait, parce qu'en plus, il y a un monde supplémentaire complet, je crois.
Et total. Ça, et surtout, t'as pas de Wiimote.
Et oui, enfin bon, ça honnêtement,
c'est mieux.
C'est pas mal. Il y a Kirby's Epic Yarn qui marche très très bien sur 3DS.
Bah, d'ailleurs, les Kirby 3DS, alors j'ai pas fait le Robobot, mais tu m'as dit qu'il était très très bien.
Ah, il est excellent.
Les Robobot. Kirby, alors Triple Deluxe, Robobot et. Il y en a un troisième, non?
Ouais, après il y a la tétrachier de spin-off Kirby en gratuit qu'on va tous oublier tout de suite.
Oui, non, il y a Battle Royale qui est pas terrible. Mais putain, je me souviens pas, je crois qu'il y a un troisième. Alors, Planet Robobot est excellentissime, Triple Deluxe est très bien, maintenant ça reste un Kirby, c'est-à-dire qu'effectivement, sur la fin, tu commences à en avoir un peu marre.
Bah, t'es content parce que ça finit vite.
C'est un peu ça. Je trouve que Planet Robobot est beaucoup plus réussi parce qu'effectivement, il est...
Il y a des robots.
Ah oui, puis non, mais même Kirby dans un putain de robot, quoi. Voilà, niquez vos mères. Tu peux essayer. T'as les figurines Nindoroid ou Nendoroid de... Nendoroid, de Kirby Planet Robobot qui sont juste absolument hallucinantes. Donc Kirby Planet Robobot très bon, mais donc Kirby's Epic Yarn, très bon remake de la version Wii, et qui contient pareil un monde supplémentaire complet. Donc bah, voilà, si vous n'avez pas envie de jouer sur une télé, ou si ça vous dérange pas de pas jouer sur une télé, bah, faut foncer dessus. Et surtout le plus hallucinant, compatible seulement avec la New 3DS,
c'est la boîte noire
Chronicles. Alors, il y a aussi Fire Emblem Warriors avec une boîte noire, donc méfions-nous.
Oui, c'est vrai.
Ouais, mais lol, Fire Emblem Warriors.
Non, mais Fire Emblem Warriors.
3DS, s'il vous plaît. Bitch please. Ah, il y a aussi Warriors sur 3DS.
Il y a aussi Warriors sur 3DS, mais la version qui rame si t'as pas une New 3DS.
Voilà, c'est celle-là. Celle-là dont on parlait tout à l'heure.
Donc voilà, Xenoblade Chronicles, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant.
Bon, alors, c'est la pire version. Peut-être. Non, c'est, honnête, mais...
c'est la pire, ça reste un tour de force, ça reste jouable. Par contre, putain, après avoir joué au remake,
tu relances
l'ancien, ça fait
bizarre. Ouais, voilà, si vous voulez jouer à Xenoblade en portable, prenez la définition.
Oui, non, mais de toute façon, aujourd'hui, ce qu'il faut prendre, c'est la version Switch. Mais par curiosité, ça vaut le coup quand même de jeter un œil à la version 3DS parce qu'elle est assez hallucinante.
Mais c'est intéressant parce que c'est la première version qui a été vraiment vendue aux États-Unis par Nintendo de Xenoblade.
Oh, t'es un gros bâtard.
Mais non, mais c'est vrai.
Très gros bâtard.
La version Wii, elle est sortie en 2012.
Ah, mais je suis
dans des GameStop uniquement et genre en 12, quoi.
Oh là là.
Ça reste la fierté de l'Europe d'avoir sorti Xenoblade Chronicle en bonne et due forme et pas aux
États-Unis. Oui, bon, à côté de ça, il y a eu. Alors, Pandora's Tower est très très bien, donc je vais pas venir faire ma bêcheuse, mais à côté de ça, il y a eu merde, comment il s'appelait
The Last Story,
qui est un gros tas de merde.
Moi, j'ai bien aimé, moi.
Mais arrête de te foutre de ma gueule. Tu joues un tank pendant 40 heures.
Attends, tu joues à des jeux Sonic, mec.
Stop.
Ne me lance pas là-dessus.
Non, attends, il va falloir qu'on fasse un débat un jour The Last Story, oui ou non.
Bah, je pense que tu jouerais en 20 ans, je te dirais non. Mais
on lâchera cette émission, on parlera des jeux de merde qu'on aime.
Oui, c'est un bon sujet, c'est une bonne émission.
Excellent
hein,
sujet pour la prochaine émission.
C'est Mortal qui va nous faire un tunnel Sonic.
Non. Stop, je le fais pour le journalisme total, monsieur. Je le fais parce que j'ai une vraie conscience professionnelle et que je suis objectif.
Oui, bien sûr, sorte de score,
Stop. Galaxy. Non, mais attends, moi, il y a vraiment des jeux de merde que je kiffe en plus, donc il y a un sujet à la Zergy, je suis d'accord, il y a un sujet.
Un vrai sujet. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié des trucs sur 3DS? Bah, ne serait-ce que, bah, il y a Animal Crossing qui a très bien marché.
Oui, mais on s'en fout, c'est Animal Crossing.
Et parlons des jeux Street Pass, parce qu'on n'a pas parlé de ça.
Si, on a parlé.
La vraie killer app de la 3DS.
Le donjon, non, mais il y a le donjon.
Non, le truc avec les têtes.
Oui, la guerre des têtes.
Ouais.
C'est excellent en fait comme jeu. C'est très rigolo. Enfin, tu passes pas plus de 20 minutes dessus, mais tu pars.
Non, mais tu prends en photo ton pote et tu lui allumes la gueule.
C'est ça.
Drôle.
Bon, c'est voilà. Avec ton boss aussi après.
Oh, stop. Bref, donc je pense qu'on a fait quand même un bon tour de la 3DS. Je pense pas qu'on ait oublié beaucoup de jeux dedans. Alors il y a peut-être d'autres trucs parce que forcément, c'est une console qui a vécu, il y a énormément de choses. Je précise aussi qu'il y a alors dans les curiosités sur 3DS, alors plus curiosité qu'autre chose, hein, il y a un Metal Gear Solid 3D qui est un remake de...
MGS3.
MGS3.
Ouais.
MGS3, 3D...
C'est pas terrible.
Il y a eu un Kingdom Hearts.
Qui
s'appelle Drip Drop Distance, 3D aussi.
Voilà. Il y a eu dans les trucs un peu curieux aussi.
Tomodachi Life, on a oublié ça.
Oui, Tomodachi Life. Mitomo, ouais,
ouais. Non, Mitopia, pardon.
Mitopia.
Mitopia, il paraît que c'est très bien.
Bah, peut-être.
C'est rigolo en tout cas.
Peut-être.
Ok, peut-être. Bah,
c'est Fang Mi, mais en cartouche.
Il y avait, alors, il y a, je crois, il y a trois Mario et Luigi. Parce qu'il y a deux remakes et un. Non,
alors,
un
non, il y a un jeu original. Il y en a eu quatre. Il y en a quatre. T'as eu deux remakes et deux jeux.
Oui, t'as eu deux remakes et deux jeux, mais il y en a un des deux qui est le croisement entre Paper Mario et Mario Luigi, qui d'ailleurs est très drôle. Qui est, je sais plus, c'est. Oh merde.
Paper Slam, Paper Jam.
Paper Jam, ouais. Où effectivement tu as Mario et Luigi qui croisent Paper Mario.
Bah, tu as un Paper Mario aussi.
Tu as un Paper Mario, alors, Sticker Star qui est pas ouf.
C'est pas dingue.
Totalement oubliable à mes yeux.
Resident Evil Révélation, ça c'était sympa.
Qui a un tour de force visuel sur
qui
3DS.
Ça c'est clair. C'est clair. Alors là, par contre, du coup, je pense que la version 3DS vaut plus le coup que les versions Wii U ou PS4, juste pour le tour de force visuel. Le jeu est oufissime.
Ah oui, non, mais
sur 3DS.
Les premières images, on était, mais.
Ben, on n'y croyait pas. Hein.
Qu'est-ce que c'est?
Moi, je pensais que c'était des cinématiques. Pour de vrai, il est hallucinant. C'est dommage que le jeu soit pas ouf. Parce que, faut être clair, le jeu est pas ouf. Par contre,
là, il est pensé portable, en fait.
Alors, par contre, tu as un très très bon jeu qui est sorti que sur 3DS et c'est un scandale, et d'ailleurs qui a fait scandale pour tout un tas de raisons, c'est Resident Evil The Mercenaries 3D.
Oui. Ça c'est vraiment des enculés.
Et le mode mercenaire qui est d'habitude se débloque à la fin du jeu, qui sort en jeu complet et qui en plus ne peut pas effacer la sauvegarde.
Tout à fait, et ça c'est dégueulasse. Mais par contre, le jeu est excellent et maintenant que ça se trouve à 5 balles, même 9. Faut en profiter, c'est vraiment le mode mercenariste, c'est de l'arcade pure et dure, ça vaut vraiment le coup. Je sais pas si on a oublié d'autres trucs, il y a eu quelques Mario Sport aussi qui sont sortis pour les curieux.
Il y a eu un Mario Tennis,
Golf.
Pas ouf. Alors, oui,
c'est pas fou, le golf était mieux apparemment.
Sport Superstar.
Alors le Mario Golf sur 3DS, je pense que c'est le jeu 3DS où je dois avoir genre 800 heures dessus. C'est probablement le meilleur Mario Golf de la série des Mario Golf.
Voilà.
Je le dis, il est excellent. J'ai acheté le DLC parce qu'il y a un pack supplémentaire avec, je crois, 36 trous supplémentaires. Il y a plein de modes de jeu. C'est le jeu que j'ai retourné en long, en large et en travers. Je l'ai fini à 100%, y compris tous les défis à la con. C'est le meilleur Mario Golf de la série. Et pourtant, Mario Golf tout le tour sur GameCube était vraiment du level. Mais non, celui-là, il est largement un cran au-dessus. J'ai failli oublier ce jeu-là.
Comment il s'appelait ce jeu? C'était un jeu d'intelligence système, un jeu de puzzle qui s'appelle Pushmo, je crois, un truc comme ça. J'ai plus son nom en français.
Ah, j'ai pas le nom.
Tu joues un petit sumo qui doit pousser des blocs pour atteindre le haut, en fait, et qui est assez cool. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon jeu de puzzle. Et alors, surtout, parce qu'on a parlé de Samus Returns qui a été fait par des Espagnols, mais qui sont aussi connus pour avoir Castlevania avec le nom préféré de Mortal.
Castlevania Mirror of Fate, non.
Lord of Shadow Mirror
of
Fate.
Mirror of Fate, ce qui est une grosse merde, n'achetez pas ce jeu.
Ouais, c'est pas fou. Hein.
Et pareil, alors si vous voulez un jeu qui était une exclusivité 3DS et qui est vraiment pas terrible, et qui est aussi un Metroidvania qui est vraiment pas terrible.
Ah oui, c'est Bullbox le nom du jeu.
Oui. Enfin, Batman ça. Arkham Asylum. Blackgate. Je crois que c'est Batman Arkham Asylum Blackgate Edition, un truc comme ça. Mais qui est vraiment un gros tas de merde.
Donc on connaît ça.
Donc c'est un jeu de la série Batman Arkham. Mais t'es dans la prison de Blackgate, et donc c'est le même principe qu'un Batman Arkham, c'est-à-dire c'est un Metroid-like, en fait, comme les Batman Arkham, sauf que là il est en 2D, et que les mécanismes sont pas terribles, et que le jeu il est moche. Et en fait il a fini par ressortir, je crois, seulement en téléchargement sur Xbox, Xbox 360 et PS3, et il est pas terrible non plus.
Ouais, ils ont souvent fait ça avec des jeux 3DS, les éditeurs tiers, les ressortir sur console en mode HD remake.
Oui, c'est arrivé. Pareil, je crois qu'il y a un Assassin's Creed pas ouf sur 3DS, donc
c'est une plateforme.
Mais voilà, bon, en tout cas, des bons jeux sur 3DS, ça se trouve. Encore une fois, une 3DS, c'est très rentable parce que vous avez accès à toute la librairie de la DS, et ça, c'est quand même assez pété. Surtout que le...
Il y a eu une version 3DS de Mario Maker.
Il y a une version 3DS de Mario Maker qui est très bonne, d'ailleurs. Parce que
Captain Toad aussi.
Captain Toad. Ça faisait partie c'est parti du live support de ces trois dernières années. Hein, où on faisait des portages de jeux Wii U et des portages de jeux.
Bah, c'est la sortie de la Switch, c'est portage de jeux Wii U, portage de jeux Wii et remake. Mm.
Et le dernier étant un remake d'un jeu DS, d'ailleurs. Donc, du coup, qui est limité.
Ce qui n'était pas si vieux que ça à l'époque. Quoi.
En plus. Enfin bref. On est contre 3DS, merci. Même si tu ne resteras peut-être pas la meilleure console Nintendo de l'histoire et surtout la meilleure console portable, en tout cas, il y a eu quelques bons jeux et puis reste des exclusivités.
Tu as permis à Nintendo de survivre pendant l'ère de la Wii.
C'est un peu ça.
Et ça reste sur cette console. J'ai oublié de le préciser quand on a parlé du jeu, mais Fire Emblem Fates reste le dernier jeu publié du vivant d'Iwata.
Tout à fait.
C'est vrai ?
C'est le dernier. Bref, officiellement, c'est le dernier.
On va se quitter là-dessus. On vous souhaite une bonne soirée. On est désolé. Enfin, pour les gens qui nous écoutent en podcast, ben, vous nous écouterez tous en podcast, c'est pas grave. Le direct revient dans 2 semaines, si tout va bien, si j'arrive à bricoler cette saloperie de console de mixage. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet...
Sachant qu'il va peut-être publier ce podcast dans 2 semaines, donc ce sera peut-être le jour même.
Peut-être, je ne sais pas.
Mais ou si la, les gens, ou la si semaine
les gens,
prochaine.
Si les gens arrêtent de me proposer des emplois, ça se passe bien. Hein. Bref, donc voilà, quoi qu'il arrive, on se retrouve dans 2 semaines. Je pense... qu'on fera un sujet, ces jeux de merde que vous adorez, parce que je trouve qu'il y a un vrai truc à faire. Voilà, en tout cas, on vous fait des gros bisous, et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao tout le monde.
Ciao, ciao.
Salut.